Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas également à nous laisser 5 étoiles et à rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci beaucoup! Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important, c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à la découverte de la maison Benjamin Kuentz. Ma rencontre avec le monde du whisky, je devais la faire en avril 2020 pour mon anniversaire lors d'un road trip en camping-car dans les Highlands. Cette rencontre n'a jamais eu lieu, un petit virus étant passé par là. Alors quand on m'a proposé de me mettre en relation avec Benjamin, j'ai tout de suite accepté car il n'y a rien de tant que j'adore que d'aller explorer des territoires dont j'ignore tout. Rendez-vous donc en terre inconnue avec un super guide, Benjamin Kuentz, qui a monté une maison d'édition de whisky. Nous verrons avec lui en quoi consiste son travail d'éditeur, on fera un point nécessaire en ce qui me concerne sur comment on fabrique du whisky, et on parlera céréales, assemblage, vieillissement, dégustation et du processus créatif derrière la fabrication de ces whiskies. Benjamin nous parlera avec passion des sensations et des goûts qu'il a voulu retranscrire dans ses créations, fin de partie, d'un verre printanier ou encore dans le Gip, qui nous promet un voyage au cœur de ce chantier naval mythique et sur cette mer qui peut parfois rappeler à l'ordre un marin trop sûr de lui. Avec Benjamin, nous aurions pu parler des heures et des heures et j'espère qu'à l'écoute de cet épisode, vous ressentirez toute la passion, le travail et la précision qu'il met dans chacune des créations de la maison Benjamin Kuentz en partenariat avec ses distilleries préférées. Bien évidemment, tout cela est à consommer avec modération. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir dans tes bureaux à Paris pour me parler de ta vie, de ta maison d'édition de whisky. Donc on va voir ce que c'est, de quoi il retourne, et puis de ton parcours entrepreneurial, de tes passions, etc., etc. Donc avant de commencer cette conversation, j'ai la même petite question traditionnelle que je pose à tous mes invités. J'aurais aimé savoir ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit garçon.
Eh bien, j'avais une ou deux envies particulières. Je voulais être chef.
Chef.
Chef de restaurant étoilé.
C'était, ah oui, bah oui, oui, d'accord. Oui.
Voilà, et je voulais être chef, j'avais aussi une envie d'être chef d'orchestre.
Alors, explique-moi, pourquoi chef de cuisine? Est-ce que tu allais souvent dans un restaurant étoilé ou dans ta famille, tu avais quelqu'un qui...
Dans ma famille, oui, on a toujours aimé cuisiner, et on avait le sens du goût et c'est vraiment un héritage familial d'avoir de bonnes choses à table et de bien les faire.
Et tu avais un modèle de chef étoilé qui te faisait rêver
À l'époque, quand j'étais petit, je voyais juste des grands noms. Donc, c'était peut-être Bocuse, ouais. Et Loiseau. Quoi.
Ah oui, Loiseau, oui, Bernard Loiseau, oui. Et donc, chef d'orchestre?
Oui, chef d'orchestre parce que j'ai une de mes tantes qui a fait le conservatoire de musique et qui m'emmenait souvent en salle Playel dès que j'étais petit. Ah, et ce qui m'intéressait, alors, c'était le son, mais c'était aussi surtout la gestuelle et puis l'aura du chef d'orchestre. Et j'ai en image Karajan, oui. Où je trouvais que c'est... Enfin voilà, à regarder, il était magnifique.
C'était magnifique, ouais.
Voilà. Et j'ai un homonyme qui est chef d'orchestre de Brest.
D'accord.
Qui est assez âgé maintenant. Mais à chaque fois, je voyais ses affiches et je me disais, ah, c'est beau.
C'est beau, j'aimerais trop être à sa place. Et du coup, à l'école, donc toi, tu es parisien.
Oui.
Voilà. À l'école, dans ton parcours scolaire, est-ce que tu mets des choses en place pour arriver à l'une ou l'autre de ces carrières ou non, tu suis un parcours traditionnel
Alors, j'ai fait du piano, mais en fait, à un moment, j'ai été viré du conservatoire parce que j'étais pas assez bon, donc j'ai pris sur moi et je me suis dit, je vais juste être amateur.
Ça t'a mis une petite claque ou non, ça allait quand même?
Oh non, ça va, mais voilà, j'ai pas assez travaillé, je pense.
D'accord, ok.
Et chef de restaurant, en fait, c'était pas, à l'époque, c'était pas bien vu, enfin, entre guillemets.
C'était un CAP, enfin c'est soit CAP cuisine ou un truc comme
ça.
Oui,
voilà, fallait partir en troisième et j'étais dans une école qui avait envie de pousser ses élèves vers des maths sup, des prépas.
Oui, t'as fait les Francs-Bourgeois, non, c'est ça?
Oui, exactement.
Oui, une grande école.
Oui, une bonne école parisienne.
Une bonne école parisienne,
d'accord. Une bonne école parisienne, mais. Donc quand je disais ça, je sentais que bon,
il n'y avait pas l'adhésion.
Il n'y avait pas l'adhésion, donc voilà.
Ok, d'accord. Donc tu fais un cursus quoi? L, S, E, S
J'ai fait un cursus S.
Ok.
En fait, pour la petite histoire, bon, on en parlera après, mais finalement, je n'ai pas été chef, mais aujourd'hui, je travaille dans le goût et je travaille avec des chefs étoilés. Donc,
ta petite revanche, en fait.
C'est ma petite revanche, on revient toujours un peu à nos origines.
Ouais. Ok, et donc ça se passe bien, la S?
Ouais, très bien. J'aime bien les maths, j'aime bien les sciences. Je m'adapte un peu au professeur. Donc voilà, je suis quelqu'un qui travaille et qui aime bien travailler quand le.
À l'affect un petit peu.
À l'affect. Beaucoup.
D'accord. Voilà. Et donc tu passes ton bac, tu le réussis.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a son bac? Vers quel parcours tu te diriges? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Là, tu as une autre idée de métier
Bah, je ne savais pas trop encore. Donc j'ai fait un doc de maths.
Ok.
À Dauphine, maths appliquées aux sciences sociales. J'avais envie, en fait, je me disais, ça peut m'intéresser d'aller à Dauphine parce qu'il y avait un cursus international et je m'étais dit pourquoi pas faire de la diplomatie à l'international.
Ok. Mal.
Oui, pas mal. Voilà, donc j'ai fait un doc de maths. Bon, il y avait beaucoup de maths pures et là, il fallait beaucoup, beaucoup bosser. Et j'avoue, les maths pures, je me suis aperçu que bon, c'était.
C'était pas
pour moi. Donc j'ai mis ça un peu de côté. Et ensuite, après le DUC, je suis parti en licence et en maîtrise d'économie appliquée.
Économie internationale.
Voilà, en économie internationale, exactement.
D'accord. Et tu apprends quoi en fait en maîtrise d'économie appliquée, économie internationale? C'est quoi le but
Bah justement, ça pouvait ouvrir
la diplomatie, la
géopolitique, des choses comme ça.
Okay.
Tu apprends de la microéconomie, de la macroéconomie, ouais. Tu apprends du droit européen. Tu as un peu de maths, mais plus cool. T'avais encore un peu de programmation. Alors ça, c'était un peu plus. C'était plus pendant le dogmat où on apprenait à programmer en Java. Donc voilà, mais en licence, c'est beaucoup micro, macro, puis études politiques un petit peu.
Ok, d'accord. Et donc à la fin de ta maîtrise en économie appliquée, tu te mets sur le marché du travail ou tu continues tes études?
Alors je continue mes études et je voulais faire un 2SS, mais celui qui m'intéressait, en fait, j'avais un dossier un peu moins bon, je pense, que d'autres. Donc j'ai pas été pris, donc je suis allé en école de commerce pour
me
généraliser.
Tu voulais faire quoi comme DESS
Dans la diplomatie.
Ouais, toujours dans la diplomatie, d'accord.
International à Dauphine.
Ok, donc du coup, école de commerce.
Du coup, école de commerce à Nantes.
D'accord.
Audency à Nantes.
Et c'était un désir de quitter Paris ou t'as été pris à Nantes, donc t'es allé à Nantes?
J'avais envie de voyager un petit peu après. Mmh. Et j'avais postulé à quelques écoles plutôt. J'avais fait Nantes, Lyon, Paris. Donc voilà.
Donc Nantes.
Voilà. Donc sympa. Nantes, c'était très bien, une bonne expérience. J'ai beaucoup apprécié, en particulier, alors je pensais rester que 2 ans, je suis resté 3 ans finalement parce que j'ai fait 1 an de césure.
Ah oui, tu es allé à Concordia?
Je suis allé, alors ça c'était quand j'étais à Dauphine.
Ah ça c'était quand? Ok, d'accord.
J'ai fait un échange universitaire à Montréal.
Montréal, ouais.
Dans une université anglaise pendant 1 an et où j'ai adoré, hein, Concordia, donc voilà, on apprend un peu à la méthode anglo-saxonne. C'est là où d'ailleurs j'ai découvert le whisky. Ouais. Enfin, j'étais déjà amateur, mais où j'ai vraiment éduqué mon palais.
Au Canada donc.
Au Canada.
Raconte-nous ça. Comment s'est fait cette rencontre de dégustation? Parce que j'ai lu que tu allais dans un bar régulièrement. Et à chaque fois, on te servait 3 whiskies différents.
Oui, exactement.
Et donc, on t'apprenait à, comme en fait, des cours d'œnologie.
Oui.
Quand on va pour. On a un monsieur qui nous dit alors, les vins, qu'est-ce que vous sentez?
C'est ça, on apprend à déguster le palais, à le découvrir, à déguster le whisky. En fait, c'est un pub écossais qui s'appelle L'Île Noire, qui était à côté de la maison. Et c'est vrai que. Le cursus, la manière d'apprendre aux États-Unis, au Québec, est un peu différente parce qu'on n'avait que 11 heures de cours par semaine, donc il fallait trouver des activités à côté. Donc l'une d'entre elles était celle-là, c'était plutôt sympa.
Whisky, oui.
Voilà, et parce que j'étais amateur de spiritueux et je me suis dit, c'est l'occasion de franchir un cap déjà sur bah, l'approche du whisky. Et
donc, la connaissance, voilà, tout ça. Ouais.
Et il proposait des dégustations accompagnées de 3 whisky toutes les semaines.
D'accord.
Et donc, c'était vraiment très bien fait. Donc, ça apprenait. Moi, j'ai un souvenir de whisky là-bas qui était génial. Quoi, t'sais. On avait l'impression de croquer une noisette bien fraîche. La noisette tombée, juste tombée du noisetier qu'on casse. Et puis, on a encore la sève dans le fruit. Quoi. Ouais. Donc voilà, des très bons souvenirs.
Des petits voyages gustatifs.
Oui, exactement.
Ouais. Donc, du coup, on en était chez à Nantes, à Audiencia.
Donc, après, je suis allé à Nantes, oui.
Tu fais une année de césure, tu vas où ?
Je fais un stage en marketing événementiel et sportif chez Danone.
Ouais.
Donc, j'ai organisé la Coupe du Monde de football pour les enfants. Ça s'appelle la Danone Nations Cup.
Ok.
La finale est en France. Il y avait un parrain comme Zinedine Zidane. C'était le parrain, c'était un ami de Franck Riboud. Voilà, il y avait Lisa Razou, c'était l'époque des champions du monde de 98. C'était pour faire un peu à la fois du marketing, mais avec un esprit un peu sympa.
Et donc, tu as passé ton année à préparer cette Danone Nation ouais. Scoop ouais, pour les petits. Et ils ont quel âge, les petits qui partent ?
Ils ont, il ne faut pas que je dise de bêtises, je crois qu'ils ont entre 8 et 10 ans. C'est
d'accord.
Vraiment, c'est vraiment organisé d'une manière très ludique. C'est pour s'amuser, il n'y a pas d'enjeu.
Oui.
Voilà. Malgré tout, il y avait, je crois, une vingtaine de nations qui venaient partout dans le monde. Et c'était les filiales de Danone qui organisaient des compétitions nationales pour ensuite les emmener tous en France, au Parc des Princes. Enfin, c'était assez, assez magnifique. Et on voyait les enfants avec des regards dans les yeux magnifiques. Ils avaient tous une star de leur pays qui était parrain. Ils se retrouvaient tous pour les finalistes dans un stade mythique. Enfin, voilà, donc c'est assez magique.
Et ça n'a pas été trop dur, t'sais, après avoir passé un an à être un adulte avec un vrai métier, tu vois, genre gagner de l'argent, etc. Ça n'a pas été trop dur de retourner sur les bancs de l'école pour finir ?
Non, parce qu'en fait, je suis allé, j'ai choisi une filière, une spécialisation qui était top, qui était la gestion des institutions culturelles et des industries des multimédia.
D'accord, ouais.
Avec des intervenants vraiment très pointus à Nantes, qui sont... en fait, Nantes, il y a une grande scène culturelle, et on avait des gens comme Monsieur Blaise qui organise les machines de Nantes.
D'accord, ouais.
On avait le responsable du lieu unique, on avait le responsable de la scène nationale du théâtre.
Okay.
On avait Monsieur Martin qui organise les folles journées de Nantes, qui sont des pendant 4 ou 5 jours des journées de musique classique, mais pour ouvrir la musique classique à tout un chacun. Donc c'est sur des petits formats de 30 minutes avec des stars internationales qui viennent jouer. Donc que des gens très brillants, et en fait quand on a des intervenants top qui prennent du temps pour nous apprendre un peu leur métier et puis nous donner envie de travailler chez eux, ça passe vite.
Ok, j'imagine. Ouais. Donc en fait, l'idée c'était de gérer par exemple des musées, de bosser dans des musées, dans des festivals, dans des choses comme ça.
Ouais,
ça te forme à ça en fait, à organiser et à faire le marketing et la gestion d'événements culturels n'importe où en France.
Oui.
En gros, d'accord. Oui, donc tu finis ce cursus, t'as ton diplôme. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a son diplôme ? Comment on trouve du boulot ? Vers quoi tu te diriges en premier ?
Bah, je voulais faire un stage de fin d'année,
ouais.
Forcément dans les institutions culturelles.
Ouais.
Et j'y suis allé, j'étais pris à la manufacture de Sèvres, au parc de la Villette. Et c'était des très beaux stages, sauf qu'en fait, c'est pas payé. T'es payé, à l'époque, je devais être payé 350 euros. C'était des stages très peu payés. Et à un moment, t'es rattrapé un peu par... par la vie parisienne.
C'est une école privée, non ? Enfin, ça
coûtait
l'école de commerce.
Bah après, tu fais un emprunt et tout. Non, mais après,
il faut quand même de l'argent pour se loger, manger.
Voilà, et moi, je devais me loger à Paris. Et en gros, je ne pouvais pas payer mon loyer.
C'est pas possible, quoi.
Donc, j'ai dit, tant pis, je raye institution culturelle. J'en ferai juste une passion. Et puis, peut-être qu'un jour, je serai mécène. Pourquoi pas. Je suis allé diriger un restaurant pendant un an.
D'accord. Ah oui, j'ai vu. Au Poivrier, c'est ça ?
Exactement. Je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai fait 2 stages en marketing avant, un chez Danone et puis j'en avais fait un chez Renault Sport. Et je me suis dit, j'ai envie de connaître le commerce et donc je veux aller sur le terrain. Donc, dans une école de commerce, on a commerce, mais on n'apprend pas en fait, à vendre ou à gérer. Voilà.
Ouais.
Et donc, et je me suis dit, c'est l'occasion pendant un an, peut-être de voir si un jour je peux ouvrir un restaurant. J'avais toujours ça en tête.
Ah oui, le chef de cuisine en toi.
Exactement. Et j'ai un ami, en fait, qui avait un restaurant au Poivrier. Et je lui ai dit, écoute, voilà, moi, je n'ai jamais travaillé dans la restauration. Maintenant, je pense savoir gérer ou pouvoir faire des choses. J'aimerais bien faire cette expérience pendant un an pour voir si ça me plaît. Et puis après, j'irai vers autre chose. Je rebondirai, et donc on s'est entendu, et pendant un an j'ai dirigé un restaurant. Alors, j'ai été formé d'abord,
oui, oui.
Et après j'ai dirigé un restaurant, j'ai fait celui du Parc Monceau, boulevard Malesherbes.
Comment ça s'est passé?
Très bien. Alors,
bonne expérience.
Très bonne expérience.
La restauration, c'est quand même c'est un milieu hyper exigeant. Enfin, c'est
très exigeant. Alors moi, c'était une chaîne, donc il y avait une certaine organisation qui permet de donner un cadre, donc ça c'était bien. Ouais. Après, c'est vrai que alors c'est exigeant en temps. C'est exigeant parce qu'on n'a pas les mêmes créneaux horaires, parce que quand on est directeur du restaurant, forcément on fait 80 heures par semaine, et voilà, hein. On ne fait pas du 35 heures, on est décalé parce qu'on travaille le week-end ou le soir, donc on change un peu de vie. Après voilà, c'est un métier de contact, c'est un métier où il faut créer une équipe, et en fait quand l'équipe se sent bien, les clients se sentent bien, et il y a beaucoup de relationnel. Moi j'aime beaucoup ça. Donc ça, j'avais beaucoup aimé. Et puis après, en revanche, c'est un métier très physique.
Oui.
Et c'est vrai que ça peut être usant.
Ouais.
Donc voilà. Et puis, il faut se dire que chaque jour, ça recommence. Et chaque jour, on doit être au rendez-vous. C'est-à-dire qu'à midi, il faut que tout soit prêt.
Ouais. Mise en place, en fait.
Mise en place.
Et voilà, les clients arrivent. Et puis après, on débarrasse, machin. Puis on recommence le soir pour le service du soir. Ouais,
voilà. Et chaque matin, tu as des surprises. Tu arrives, je sais pas, tu as une fuite. Tu as... ton cuistot qui est malade, qui s'est cassé la jambe, qui est dans les grèves.
Voilà, oui.
Donc c'est pendant 3 heures, t'as de l'administratif à faire,
ouais.
Tout préparer. Mais c'est hyper intéressant. Enfin, moi je trouve que c'est un beau métier. D'ailleurs, enfin voilà, on aime tous aller au restaurant, je pense au bar.
Oui. Quoi. Ok, donc ça dure un an.
Et puis ça dure un an.
Pourquoi tu pars? Pourquoi tu...
Je suis parti parce que je me suis dit, je veux bien bosser comme ça,
ouais.
Mais si je bosse comme ça, comme un fou, je veux que ça soit pour moi, en fait.
Ouais.
Même si on est bien payé, à un moment, on s'use quand même, on a un rythme de vie différent. Donc, je me suis dit, soit je le garde en tête, je monte un truc pour moi, soit je m'entoure pour créer un jour un restaurant.
Ouais.
Et en fait, j'ai eu l'opportunité, moi je m'étais fixé de toute façon de faire un an d'expérience, et j'ai eu l'opportunité de passer de l'autre côté du bar.
Okay.
Et je suis parti travailler chez Bacardi Martini,
ouais.
Un grand groupe industriel de spiritueux.
Mm-hmm.
Ce qui m'intéressait, c'était d'apprendre la vente, en fait. Et donc j'ai été commercial pendant 3 ans chez eux, où je visitais des bars, des restaurants, des hôtels de luxe, et où je vendais la gamme de spiritueux de Bacardi Martini.
D'accord.
Qui a une gamme assez élargie, donc il n'y a pas uniquement Bacardi, le rhum, pour faire des mojitos ou des daiquiris, hein. Il y a aussi Martini, évidemment,
oui.
Qui sont les deux marques phares, mais après il y a plein d'autres spiritueux dans leur gamme, qui sont Bombay Sapphire en gin, qui sont Grey Goose en vodka par exemple, et puis il y a des marques plus très françaises comme Jet 27, Neuilly Prat, qui est une marque assez pointue dans le vermouth, mm-hmm. Et très reconnue,
D'accord. Ok, et donc tu restes 3 ans à un même poste, mais après tu deviens responsable, ce qu'on appelle responsable trade marketing. Donc là tu gères une équipe qui fait la même chose que toi et qui va sur le terrain pour vendre en fait les spiritueux de la maison Bacardi Martini France.
Ouais, exactement.
Et tu gères cette équipe.
Je gère cette équipe. Après, trade marketing, en fait, c'est le lien entre le marketing et le commercial et le terrain. Et l'idée, c'était de s'assurer que le marketing peut avoir des plans pour emmener une marque quelque part. Il faut s'assurer que ça soit réaliste et que ça puisse s'adapter au terrain. Et inversement, s'il y a peut-être des choses du terrain qu'on n'a pas en tête au marketing, donc c'était vraiment créer ce lien-là. Pour accompagner donc le terrain et puis toujours les clients pour bien répondre eux à leurs consommateurs. Donc c'était hyper intéressant parce que voilà, moi c'est un peu de la diplomatie entre deux secteurs, on va dire, entre deux départements. Mais et après c'était moi je participais aussi beaucoup au plan des marques pour accompagner et puis dire qu'est-ce qu'on peut créer pour
la mise en valeur, non, peut-être aussi de, je sais pas, au niveau visuel, au niveau publicité, non, je sais pas si...
Oui, exactement, c'était développé, par exemple, moi j'avais développé des vasques lumineuses pour la marque Grey Goose, pour les belles boîtes de nuit, donc ça c'était assez marrant. Donc c'est à la fois des visuels un peu innovants, donc ça c'était au début, hein, c'était il y a déjà plus de 10 ans, mais c'était aussi participer à des festivals, bah, au Festival de Cannes par exemple, ouais. Ah. Où là moi j'organisais, je mettais en place bah, tous les partenariats avec Grégouze ou Martini, entre autres, sur, avec les établissements avec qui on travaillait pendant l'année. Donc c'était sympa, on avait un beau bar à cocktail à l'hôtel Martinez ou au Majestic, enfin voilà,
deux endroits sympathiques pendant un événement sympathique,
exactement, avec plein de paillettes. Alors bon, faut pas être noyé par ça, mais j'étais là pour travailler
un petit peu, voilà.
Mais c'était assez sympa et je retrouvais, ouais, d'ailleurs des amis de Nantes qui étaient avec moi, tu vois, en institution culturelle, mais qui eux avaient continué dans le cinéma ou autre, et on se retrouvait là-bas.
C'est bien.
C'est marrant.
D'accord. Et donc tu restes 5 ans donc dans le groupe Bacardi Martini France. Et qu'est-ce qui te fait, pourquoi tu décides?
Un peu plus même, je pense, de peut-être 6 ans, non?
J'avais noté 5 ans. Ans et quelques mois, dirons-nous.
Ouais. Bah, et en fait, après, bah, moi j'avais envie de continuer à travailler dans les spiritueux, mais à l'international. Et donc j'essayais de regarder un peu des pistes comme ça.
Ah oui, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu as des cours quand tu rentres par exemple chez Bacardi Martini France et que ton job c'est de vendre? Est-ce que tu es formé, alors j'utilise le mot œnologie parce que c'est, moi je l'applique au vin, mais est-ce que tu as des cours comme ça de dégustation pour pouvoir mieux le vendre, ou les bars dans tous les cas ils savent ce qu'ils commandent, donc t'as pas forcément besoin d'élaborer une description pour leur vendre un produit?
Oui, alors bah, oui, on nous apprend à déguster, on nous apprend comment est fait le produit, on va visiter les lieux de production. Ouais, en plus c'était dans des années assez sympas parce que on est allé même jusqu'à Puerto Rico pour aller visiter la distillerie de Bacardi. Donc c'est une énorme marque. Cependant, quand tu vas dans une distillerie, même aussi grosse qu'elle soit, les gens qui produisent, tu as toujours le master distiller, et ben il va produire on va dire la gamme permanente, ouais, mais il va produire aussi des petites pépites, ouais, qu'il va sélectionner, et puis donc enfin il y a, moi c'est des choses qui me font un peu voyager, ouais. Et à côté de ça, j'allais visiter la distillerie de Fécamp pour Bénédictine ou Neuilly-Prat, qui sont elles beaucoup plus petites, ouais, où il y a ce côté encore assez artisanal finalement, donc il y avait un peu la grosse machine et puis des petites marques. Donc oui, on a...
T'as ces cours de dégustation pour pouvoir en parler et vendre un produit, ouais, que tu connais, et tu sais comment c'est fait, qui, ouais, y a derrière, etc. Mmh. Donc ça rend tout un peu... Je sais pas, ça ramène de l'humain dans peut-être des grandes marques, etc., ouais, qui sont produits industriellement, on va dire. Mmh.
Exactement. Et après, pour vendre, de toute façon, si tu connais pas ton produit, ouais, tu vends mal. Donc après, chacun choisit d'aller plus ou moins loin dans la découverte de ce qu'il va vendre. Mais moi, j'ai essayé d'aller assez loin et puis de discuter avec les producteurs... Et puis après, c'est travailler sur le tas. C'est-à-dire que quand on vend des produits à des chefs barman ou à des sommeliers, ben forcément, on va discuter de goût, de passion.
Tu sois un peu au niveau de ces gens-là qui, eux, sont des professionnels, surtout des sommeliers dans certains établissements. Oui, tu ne peux pas leur raconter...
Exactement.
Que tu sois un peu tanké en face pour pas... Sinon, tu les... Enfin, en 5 minutes, ils ont compris...
Ils voient tout de suite si t'es un touriste ou pas.
Allez, salut. Voilà. C'est ça.
Et vu que j'ai toujours, moi, été bercé par le goût, forcément, ça m'intéressait. Je pense qu'on avait déjà la même manière de discuter. Et, ouais, voilà. Et j'étais assez, assez, on va dire, critique sur les échanges qu'on avait.
Ok. Donc, on en revient donc à la fin de ton parcours chez Bacardi Martini France. Donc, tu disais que tu voulais travailler à l'international.
Oui, donc je regardais pour continuer soit au sein du groupe, mais à l'international. Et je regardais principalement ça. Et puis à ce moment-là, j'ai été chassé par un cabinet pour créer la filiale d'une entreprise qui s'appelle CGA Nielsen. Donc CGA Strategy, c'est une petite PME anglaise qui est en joint venture avec une boîte qui s'appelle Nielsen, qui est le grand panéliste mondial pour fournir des chiffres de vente, en fait, et des statistiques de vente.
Ok.
Pour suivre la consommation des biens de grande consommation, principalement dans les supermarchés,
d'accord,
dans les grandes surfaces, donc avec les codes-barres par exemple, ou des choses comme ça. Et ces statistiques de vente n'existent pas ou très peu en fait sur ce qu'on appelle le CHR, donc tout ce qui est café, hôtel et restaurant, parce, d'accord, que déjà il y a plus de 200 000 points de vente en France comme ça, et que ce sont tous des indépendants. Et que chacun a sa manière de faire sa comptabilité, et en fait c'est compliqué d'avoir des stats de vente précises.
Oui, donc il faudrait trouver.
Univers.
En fait, il faut trouver quelqu'un qui rassemble tous les chiffres de tous ces gens-là pour avoir une vision. Une vision de ce qui se passe, de ce qui est vendu. Ah oui, d'accord, donc c'est un boulot colossal, non?
Bah exactement. Et,
la mission.
Et en fait, ils cherchaient quelqu'un qui connaisse cet univers. Donc moi, je venais de cet univers. Et puis, qui était motivé avec une fibre entrepreneuriale. Okay. Parce que c'est arrivé dans un... En fait, moi, j'ai créé la filiale en France. J'avais juste un bureau vide, une voiture, un téléphone, un ordinateur. Mais finalement, il fallait brancher les tuyaux et puis... faire en sorte de récupérer des stats de vente et puis après créer le modèle et ensuite le vendre à des entreprises.
Tu pensais déjà, parce que là d'une certaine façon, vu que tu crées une filiale de cette entreprise là en France, d'une certaine façon tu deviens pour la première fois dirigeant d'entreprise, mm-hmm. chef d'entreprise, c'était quelque chose qui t'avait effleuré l'esprit un jour de devenir ton propre patron là d'un groupe, mais je veux dire t'es toi tout seul avec toi-même, ça t'avait déjà... T'avais déjà envisagé d'avoir ce type de rôle?
En fait, oui, parce que quand j'étais chez Bacardi, en fait, j'avais déjà en tête de créer un jour ma marque.
D'accord.
Et donc, c'était naissant à la fin de mon parcours chez Bacardi en disant un jour, j'aimerais bien créer ma marque.
Moi, c'est dû à quoi? Une rencontre,
J'allais dans des entrepôts, déjà je trouvais ça sympa. quand je voyais des chaînes d'embouteillage, quand je voyais des chais où on entrepose les fûts et le travail sur le goût, en fait ça me plaisait. Et je me disais, mais moi je sens en moi une fibre créative sur le goût et j'ai envie de créer ça. Et donc je me suis dit, j'aimerais bien créer. Alors à l'époque, j'avais envie de créer trois choses.
Ouais.
Du whisky, okay. français. Alors c'était, enfin ça n'existait pas, hein. Il y avait juste quelques marques mais qui existaient parce que elle s'était créée à 20 ans ou 30 ans et c'était très régional. Mais je me suis dit, mais en France on a tout pour faire de très bons whisky, on est le plus gros marché de scotch, de whisky écossais au monde, on est des gros consommateurs et pourtant on a tout pour faire très bons whisky, pourtant on n'en fait pas. Mais je me suis dit, un jour j'aimerais bien créer ma marque de whisky en France. J'étais amateur de jeans aussi, et donc je me dis, ça serait bien de lancer un jean. depuis, il y a eu une grande vague de jeans, et donc je l'expliquerai après, mais je ne me suis pas lancé là-dessus. Et puis d'autres vies de fruits, parce que pour moi, ça fait partie un peu d'un rituel en fin de repas. Saluer un bon moment, je trouve que déguster une belle eau de vie de fruits, et en France, on a de très très belles eaux de vie de fruits.
Un fruit particulier ou non?
Mon nom est alsacien, donc quand j'étais petit, mon père rapportait beaucoup d'eau de vie de fruits d'Alsace, donc j'ai une sensibilité particulière avec les eaux de vie d'Alsace.
Je
sais que
quand j'étais enfant, je buvais.
Ouais, non, ça, on ne le dira pas.
Ok. Donc du coup, tu montes la filiale de CGA Nielsen en France. Et donc, comment ça se passe concrètement? De quoi sont faites tes journées?
mes journées sont faites d'un métier d'entrepreneur. Alors, j'étais intrapreneur. J'avais une sécurité, c'est que j'avais un salaire.
C'est ça.
Donc, ça, c'est quand même assez sympa. Tu es
backé par un grand groupe.
Donc j'ai du back office, j'ai des soutiens pour le RH, pour la compta, c'est quand même très agréable. Ouais. Malgré tout, c'est à moi de faire mes preuves et c'est à moi. On avait trois filiales qui se montaient à l'époque en Europe et le modèle n'était pas prêt parce qu'il fallait le modèle, c'était créer un modèle statistique, donc c'est récupérer des stats de vente. Auprès de grands groupes de distribution de boissons que peuvent être Métro, France Boissons, des gens qui livrent tous les jours des restaurants, des bars, des hôtels. Donc il fallait leur dire, confiez-nous vos stats de vente, faites-nous confiance vous serez pas transparent, mais nous on va consolider toutes ces stats de vente avec un panel terrain parce que je devais visiter à peu près, je sais plus combien c'était, mais 7000 points de vente en France. Donc on avait des agents qui visitaient des points de vente en France pour récolter des infos sur le terrain auprès des bars, des restos, des cafés. Et puis on demandait aussi aux grands industriels de nous confier leur stade de vente, donc les sorties de leurs entrepôts, pour justement faire une triangulaire et consolider des stades de vente à trois, à trois sources. Et donc là, il faut d'abord brancher les tuyaux, récupérer d'abord toutes ces
convaincre,
infos,
ouais,
convaincre. Et en fait, ça met du temps parce que on donne pas son relevé bancaire à n'importe qui, on va dire.
Voilà.
Donc, faut convaincre, ça met du temps, et le temps quand on crée une boîte, Donc souvent, les gens qui financent, ils ont besoin de...
Du résultat rapidement.
Voilà, donc ça demande un peu d'ingéniosité pour aller chercher, en fait, pour créer finalement, en fait, vu que ça mettait du temps, moi, je suis allé créer d'autres outils.
D'accord.
Et j'ai créé d'autres études pour analyser certaines thématiques sur le marché et pouvoir les vendre et les commercialiser soit à des petits groupes, soit à des grands groupes dans le vin, la bière, les sodas ou les spiritueux.
Ok, d'accord. Et du coup, tu restes combien de temps dans... Enfin, ça marche au final ? Vous arrivez
ouais, je reste
à...
5 ans. Hein. Oui,
vous
je...
arrivez à... ça se met en place, les
bah,
gens
exactement.
Vous confient.
Oui, ouais. Bah, après, on est des...
C'était, c'est quand même une boîte un peu connue.
Voilà, c'est une boîte connue, sérieuse. Ils savent que quand on confie des stades de vente, on respecte la confidentialité et puis, voilà, de tout le monde. et au contraire, et puis c'était vraiment une demande aussi du marché d'avoir ce panel. Et donc, bah, ça fonctionne. Et ça fonctionne encore aujourd'hui, donc j'en suis ravi. Et après, ça a demandé beaucoup d'énergie parce que moi, ce qui m'intéressait dans cette expérience, je savais que ce n'est pas une expérience dans laquelle je pourrais continuer parce que de toute façon, je voulais revenir au spiritueux et puis au goût.
D'accord.
Mais ce qui m'intéressait, c'était de valider en fait le fait d'être intrapreneur et donc d'avoir cette fibre-là en moi. Finalement, j'avais en tête aussi, je me disais, c'est l'occasion de prendre un peu du recul sur le marché, de faire mon étude de marché, de gagner en maturité et de m'assurer que demain, si je me lançais pour créer ma marque de whisky...
Il y a de la place.
Il y a de la place et qu'il y ait une réponse sur le marché. Parce qu'à l'époque, le whisky français, on en parlait, les gens disaient « Attendez, vous êtes gentil, entre guillemets, on voit pas ce que viennent faire les Français dans le whisky. »
Vous avez déjà le vin, le champagne, c'est bon.
Voilà,
quoi.
Exactement, le cognac, le calvados,
c'est
mais
ça.
Alors le whisky,
non,
c'est écossais, c'est irlandais, et puis voilà.
Ouais.
Donc c'était quand même validé aussi ce pari-là. Et puis aussi, bah, continuer à gagner en maturité et puis développer mon réseau, hein, parce que je travaille avec des grands responsables des grosses boîtes du secteur.
C'est plutôt cool, tu te fais la main, tu gagnes de l'info, donc
ouais.
À un moment, tu décides de te lancer.
Et bah voilà.
À un moment, tu te dis, allez, c'est parti.
En 2016, en fait, 2015, je me suis dit, bon, je sentais que ça commençait à frémir. Et
ouais.
je disais, bah, c'est mon moment. Si j'attends trop longtemps, je ne pourrais pas essayer, je ne pourrais pas me lancer. Pourquoi c'est mon moment ? Parce qu'il y a deux choses qui sont arrivées sur le marché, justement, sur ces 5 années où j'étais intrapreneur. C'est l'essor du whisky japonais.
Ah oui.
Qui a ouvert énormément les esprits des mentalités
des
consommateurs.
L'essor de l'Écosse,
de
l'Irlande et peut-être à la rigueur des États-Unis aussi.
Ouais,
on s'ouvre à l'Asie.
Voilà, et on se dit, en fait, il n'y a pas que les anglo-saxons qui peuvent faire du whisky, mais il y a d'autres univers. Et c'est bon. donc ça, c'était bien. Et puis, il y a l'essor des microbrasseries aussi, en France. Le boom même des microbrasseries qui ont redonné un coup de projecteur sur le savoir-faire français. Et finalement, on s'est dit, mais oui, on est un pays de goût. Oui, on a un savoir-faire brassicole et on fait des bonnes choses. Et donc, ces deux points me permettaient de valider le fait que sur un marché, le whisky, c'est un très gros marché. C'est un marché qui a tendance en plus à se valoriser. C'est-à-dire qu'on boit moins mais mieux, principalement dans les pays occidentaux. Et moi, ça tombe bien, je préfère boire moins mais mieux. Et donc faire du très bon, et quitte à en consommer vraiment un peu, mais en profiter.
Avec parcimonie, mais voilà,
ouais, exactement.
Toujours du très bon.
Et en plus, et ça m'a arrangé, parce qu'en France, produire en France, ça coûte cher. Donc autant bien produire pour que le rapport qualité-prix soit juste. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est maintenant, en 2016, il faut que je lance ma marque et il faut que je vois comment je le fais.
Ah, et ben justement, comment on fait ? Déjà, si tu permets, on va faire... Donc là, ton idée directement, est-ce que tu veux directement devenir éditeur de whisky ?
Alors,
ou tu te dis, je vais avoir une distillerie. Tu sais, on peut voir les choses en grand. Genre, je vais avoir ma distillerie et je vais faire mon whisky.
Alors,
parce que ta démarche actuelle est un peu différente.
Oui, complètement différente d'une distillerie. En fait, j'avais 3 options.
Ouais.
J'avais pas en tête le terme éditeur. Je l'ai inventé en fait pendant 2016, pendant l'année, pendant ma réflexion. Ce qui est certain, c'est que moi, j'avais envie, soit d'acheter une distillerie, soit de m'associer à une distillerie. Donc, c'était la deuxième option. Soit, je me disais, la dernière option, mais c'est la moins facile et moins évidente, c'est de créer une marque from scratch. Et puis de ne pas avoir de distillerie, mais de travailler avec des partenaires.
Okay.
Pourquoi ? Parce que, distiller, ça demande du temps d'apprentissage. Moi, je ne viens pas d'une famille qui distille depuis des générations. Et donc, je cherchais mon binôme, ingénieur agronome, pour produire, entre guillemets, pour être dans la mécanique, quoi. Donc je me disais, bah, j'ai plusieurs solutions. Soit je rachète une distillerie, parce que, qui fait du whisky ou pas, mais il y a plein de distilleries qui ne font pas de whisky, oui, mais qui ont un outil de production qui peut s'adapter. Et donc dans ce cas-là, bah, je m'appuie sur un existant et puis j'innove en créant du whisky. Soit je m'associe à une distillerie déjà existante et puis bah, voilà, moi j'apporte mon savoir-faire en commercial, en marketing et surtout l'idée que j'ai du goût que je veux créer. J'avais une idée très précise des goûts que je voulais créer.
Ah, tu avais déjà une bibliothèque de goûts dans la tête, oui, de ce que tu voulais retrouver dans ton
dans mes whisky.
Dans tes whisky. Ouais. Okay.
Et je savais ce que je voulais créer. En revanche, il fallait que je trouve la manière de le produire et de, oui, le faire. Ou soit bah, justement la dernière étape. Et en fait, elle est parue évidente à mes yeux suite à mon petit tour de France. Parce que j'ai fait un tour de France des distilleries qui m'intéressaient,
okay,
ou que je pouvais rencontrer. Et donc, en faisant ce tour de France, je me suis aperçu que j'avais envie de créer des whisky complètement différents suivant les régions dans lesquelles j'étais. Parce qu'on ne distille pas de la même manière, je sais pas, en Lorraine, en Bretagne, en Charente, en Bourgogne, dans le Sud-Est. Parce qu'on a des terroirs différents, on a un héritage différent qui fait que, bah, à l'époque, enfin voilà, on a des types d'alambics différents, on a des fruits différents, et on a des manières de travailler le vin ou l'assemblage différemment. Et c'est ça qui est génial, c'est une grande richesse qu'on a en France. On est un pays de goût, on est un pays de terroir, et on le voit dans la gastronomie, on le voit dans le vin, on le voit dans les eaux de vie de fruits. Et donc je me suis dit, mais je n'ai pas envie de m'ancrer dans une région et d'être limité à un seul type de distillat.
Okay.
Parce que ça va me frustrer. Et en fait, je veux rester libre, finalement, et je préfère choisir de rester libre, de travailler avec l'un ou l'autre et de travailler avec plusieurs partenaires, plusieurs distilleries, plutôt que de rester juste dans une région. Et j'ai fait ce choix, finalement, qui n'était pas le plus évident et le plus facile, de dire, bah, en fait, je ne vais pas avoir de distillerie pour créer un whisky. Alors, ça peut paraître bizarre. Mais je vais concentrer mon travail sur une chose qui est essentielle et qu'on oublie trop en fait dans le whisky, c'est les dernières étapes. Et la dernière étape pour créer un whisky, c'est l'assemblage. Et l'assemblage, en fait, les whiskies, il y a plein d'appellations et les appellations principales, c'est blended whisky, pardon, et single malt whisky. Et on se dit que blended, c'est un whisky d'assemblage,
ouais,
ce qui est vrai, et que single malt, c'est un seul fût.
C'est un seul et même, ouais.
Et en fait, non, single malt, ça ne veut pas dire un seul fût. Ça, c'est single cask ou single barrel. Mais single malt, ça veut dire un whisky qui est fait à base d'une seule céréale, c'est de l'orge maltée, et qui vient d'une seule distillerie.
Ouais.
Mais quand on a un whisky, par exemple, de 8 ans d'âge, c'est le whisky le plus jeune qui donne l'âge. Mais en fait, le single malt, il y a un travail d'assemblage à faire. Et en fait, on va choisir dans notre chai, dans notre distillerie, on a un chai, on va choisir dans ce chai-là d'assembler différents fûts qui ont vieilli 3, 5, 10, 15 ans, qui ont vieilli dans différents types de barriques ou avec différents types de distillats pour les créer ensemble, pour les assembler et trouver finalement un équilibre de goût. Et ça, c'est la pâte. Et ça, c'est la pâte, bah, comme un chef qui va choisir des producteurs de fruits, de légumes, de poissons, enfin, je ne sais pas, il va les choisir. Après, son plat, c'est lui qui va le créer. Il va l'assaisonner, il va le cuire d'une certaine manière. Enfin, c'est suivant ses humeurs, ses inspirations. C'est pareil pour un nez de parfum, c'est pareil. Et donc moi, j'ai toujours aimé cuisiner. J'ai toujours apprécié le goût. Et mon palais, je l'ai formé sur le tas, en fait, dès le plus jeune âge. Et puis en rencontrant après, ensuite, des chefs barman ou des sommeliers. en discutant, voilà, j'ai affiné. Et finalement, quand je me suis lancé, je me suis dit, bah, moi je pars pas de la distillation, enfin, je vais goûter les distillats chez les uns chez les autres, je vais les apprécier et je vais les sélectionner parce que je dis, bah, ça j'aime bien et voilà ce que j'aime bien chez lui et pourquoi. Et après, en fait, je vais travailler deux choses qui sont clés, c'est l'assemblage et puis c'est l'étape juste avant qui est l'affinage ou le vieillissement, où je peux sélectionner des fûts si je trouve pas ce que je veux en fait dans une distillerie partenaire. Et ben, je vais sélectionner des fûts, je vais lui demander s'il peut me mettre ce type de whisky dans ce type de fût que je lui envoie pour faire un affinage et ensuite créer un goût, une aromatique qui ensuite moi va m'emmener dans ce que je veux créer, quoi.
D'accord, donc là on vient de parler de l'assemblage, donc on va revenir un petit peu en arrière. Comment on fait du whisky? Déjà j'ai vu, parce que j'ai regardé plein de vidéos YouTube pour ça, pour pas avoir l'air trop bête, donc il y a whisky avec Y et whisky avec EY. Donc whisky avec un Y, c'est des whisky écossais, et EY, c'est Irlande ou États-Unis.
Oui.
Est-ce que j'ai juste...
Tu as juste.
Oui. Les Japonais, ils sont Y.
Ils sont Y, oui, mais en fait, ils sont Y parce que les Japonais ont appris à faire du whisky grâce aux Écossais.
Okay.
Ils ont amené des maîtres distillateurs écossais au Japon et ils ont appliqué leur méthode là-bas.
D'accord, ok, donc. Voilà, pour cette partie.
Et puis ils importent aussi pas mal de whisky écossais.
D'accord.
Au Japon, qui font affiner là-bas pour créer leur whisky.
Ah oui.
Donc, ils ont pas que, hein, ils distillent évidemment aussi là-bas, aussi, mais ils ont aussi de ça.
D'accord. Et donc le whisky, il y a plusieurs étapes. Donc pour faire un whisky jusqu'à l'assemblage et puis la mise en fût, et puis on attend quelques années pour pouvoir le déguster. Donc d'abord, d'abord on récolte le céréal, je suppose.
Oui.
Donc il y a plusieurs types de céréales, donc l'orge maltée, tu l'as dit.
Oui.
Puis moi je savais pas du tout qu'on pouvait utiliser plein de le sarrasin. Il y a oui. des maisons de whisky
en Bretagne
qui font du whisky à base de blé noir, du sarrasin. Et je savais pas que le bourbon c'était du maïs.
Oui,
voilà, donc on peut utiliser plein de.
En fait, le whisky, si on doit le résumer en une phrase, c'est une eau de vie de céréales.
D'accord.
Donc la matière première est la céréale. Et si on veut pousser un petit peu, c'est une eau de vie de bière.
D'accord.
Parce que les quatre premières étapes pour faire un whisky, c'est comme si on faisait une bière, à la différence qu'on n'a pas le droit d'aromatiser, nous.
D'accord.
Notre bière, comme le font les brasseurs, avec du houblon. Nous,
okay.
on fait une bière de malt. Qui sera notre matière première qu'on va distiller et qui va se transformer en distillat pour faire du whisky après.
D'accord.
Donc oui, la première, en gros, il y a 7 étapes pour faire du whisky. La première étape, c'est sélectionner une céréale. Chaque étape va apporter un peu sa pâte ou sa part du gâteau pour créer une aromatique. Le choix de la céréale est important parce que ça va apporter justement une direction gustative.
Toi, ça t'arrive d'aller sélectionner des céréales? Je ne sais pas si c'est... Si ça t'intéresse cet aspect-là, mais
oui,
ça doit
sûr.
Être. Enfin, il faut des connaissances peut-être agro. Enfin, je sais pas.
Moi, ce qui m'a. En fait, c'est pour ça que le terme d'éditeur arrivera à souhait, en fait, pour expliquer mon travail. Moi, ce qui m'arrive, c'est évidemment de discuter avec des producteurs de céréales, des agriculteurs, parce que c'est des gens qui travaillent la terre et que ils ont un sens de la terre qui est génial et que la terre, c'est ce qui va nous donner en fait
le goût aussi,
le goût.
Ouais, c'est ça.
Et donc on parle de terroir dans le vin, dans les céréales c'est compliqué parce qu'on a des cultures qui sont obligées, on est obligé de les faire tourner pour justement toujours nourrir le sol et qu'ils rendent ensuite aux céréales. Donc peut-être qu'on parlera de terroir, on commence en tout cas à le travailler en France. Mm-hmm. Mais on aura vraiment un impact peut-être dans une ou deux générations,
ouais.
Pour avoir suffisamment d'historique pour le mesurer. Mais ce qui est certain, oui, moi j'aime bien parler de la céréale et j'aime bien savoir comment les distilleries avec lesquelles je travaille
choisissent
leurs céréales.
Okay. Donc le choix du céréale, on commence par le choix du céréale, ensuite
Céréale, donc en effet ça peut être orge maltée, c'est single malt, c'est la plus noble on va dire, parce qu'en aromatique elle va apporter plein de choses, mais les whisky blended... C'est des mélanges de céréales, donc majorité de blé généralement, avec toujours un peu d'orge. Ça peut être du seigle, ça peut être de l'avoine, du maïs.
Du sorgho.
Du sorgho, exactement. Ouais. J'ai goûté des très très bonnes choses. C'est très très petit encore, mais ouais. J'ai goûté des très bonnes choses, moi, à base d'épeautre, à base de sorgho. J'ai commencé à goûter des choses intéressantes.
Okay.
Donc ça peut être sympa.
Mais toi, tu travailles que l'orge.
Alors j'ai fait un whisky, pour l'instant j'ai fait que de l'orge, donc que de single malt,
ouais.
À part un de mes whisky qui était une série limitée aux particules vines édition 5, où là j'ai assemblé un whisky de blé noir justement avec un whisky d'orge malté.
D'accord.
Et donc alors le blé noir c'est pas une céréale à proprement parler.
D'accord.
Mais ils ont malgré tout cette appellation parce que c'est historique, ils en font depuis longtemps et c'est une semi-céréale, mais il y a une aromatique incroyable dans le whisky de blé noir, moi j'apprécie beaucoup et en revanche moi je l'ai utilisé dans un assemblage justement où c'est un blending malt.
Okay.
Donc c'est deux whisky qui viennent de
deux distilleries
différentes,
ouais.
Qui sont assemblés ensemble.
D'accord.
C'est un blending grain même parce que c'est deux types de céréales différentes. Donc voilà, et le whisky de blé noir, j'ai mis que 5% de whisky de blé noir dans mon assemblage.
D'accord.
Mais ça a apporté une complexité que je cherchais dans mon goût.
D'accord. Donc on a sélectionné nos céréales. On les a trempées, il faut faire l'étape
ouais,
du
ensuite,
trempage.
L'étape du maltage, il faut les tremper.
Voilà.
Pourquoi? Parce qu'il faut préparer. Dans la céréale, il y a de l'amidon, il y a du sucre et c'est ce sucre-là qu'on va transformer en alcool.
Okay.
Et donc, suivant la céréale, on va préparer cet amidon pour on va dire qu'il soit le plus fermentissible possible.
Okay.
Donc pour l'orge, il faut ce qu'on appelle le maltais. Donc c'est-à-dire que on va l'orge, la céréale est en dormance hein, pendant plusieurs mois. Nous, on va prendre cette orge, on va la tremper dans de l'eau. Donc là, l'eau rentre en, dans l'élaboration du whisky.
La sélection de l'eau. J'ai vu qu'en Écosse, ils avaient certaines sources dans le nord de l'Écosse, le nord... ça, c'est l'Est. Tu avais certaines rivières, certaines eaux de certaines sources qui étaient utilisées que pour tel ou tel whisky. Enfin, c'est hyper important l'eau qui est sélectionnée. Oui. Quelle source, de quel ceci, de quel cela.
Oui, bah, en fait, forcément, toutes les distilleries ont besoin d'eau donc, ouais. Et les brasseries également. Donc, forcément, elles vont historiquement s'installer auprès de sources,
Ouais.
Qui vont leur apporter une eau qu'il faut la plus pure possible, on va dire, pour ne pas altérer le goût, en tout cas, parce que ça va apporter un goût. Si on utilise de l'eau, je sais pas, de Vichy, pour je prends un extrême, oui. Mais forcément on va avoir un impact. Après aujourd'hui,
ça peut être une idée, hein. Tester, oui, tu vois, un truc, amener
pourquoi
de la
pas.
Complexité,
ouais.
Du soufre.
Mais après voilà, et donc une fois que l'eau est bien choisie. Ouais. On se trompe pas, enfin voilà, en France on a des très belles sources, et puis s'il faut l'osmoser ou la préparer pour qu'elle soit pure et parfaite, on le fait, enfin voilà.
Okay.
Donc finalement l'eau, une fois qu'elle est bien choisie, on se trompe pas, et donc elle va pas altérer le goût, au contraire.
Okay.
Mais donc cette étape de maltage, elle est importante parce que on va tremper notre céréale dans l'eau, ça va réveiller en fait les germes, la germination de la céréale, ça va la préparer, et cette germination c'est ce qui va commencer à préparer notre amidon finalement pour qu'il soit plus facilement fermentissible.
D'accord.
Et donc le maltage, c'est l'étape où on va chauffer et arrêter la germination en chauffant très fort notre céréale, ce qui va permettre finalement de la torréfier comme un grain de café. Et donc le maltage est important parce que il y a aussi un goût qui va être apporté pendant le maltage. On va choisir de faire un malt tourbé ou un malt non tourbé.
D'accord.
Et donc quand on parle d'un whisky tourbé, il est tourbé parce qu'on aura utilisé de la tourbe pour malter, donc pour sécher et torréfier notre céréale.
On dit que c'est les scotch, donc les whiskies écossais, qui ont ce goût tourbé, non ? C'est parce que
alors, ça dépend de la région.
Ça dépend de la région, ouais.
C'est la région des Isla,
ouais.
Donc de l'ouest de l'Écosse sur l'île d'Isla, qui s'écrit Islay, hein,
oui.
Avec AY, mais qui à l'époque, eux, ils prenaient ce qu'ils avaient
De la disposition pour faire chauffer, donc c'était
voilà,
de la tourbe.
Voilà, c'était de la tourbe.
D'accord.
Ils
utilisent donc
ça en combustible.
Ok, donc tu as fait ton maltage, et ensuite, quelle est l'étape d'après ?
Après, on va brasser et fermenter.
Ok.
Donc ça, c'est vraiment comme la bière.
Ok.
Donc brasser, l'idée c'est on a notre maltage, on a nos grains torréfiés, on va les faire de la farine un peu grossière,
oui.
Qu'on appelle le grist, on va la mélanger dans les grandes cuves avec de l'eau pour brasser tout ça et finalement que l'amidon se mélange avec l'eau. On va garder que le liquide, les drèches, les résidus d'écorce ou de céréales, on va les donner au bétail.
Oui, c'est ça, c'est de la nourriture pour les
bêtes, ou alors on va les utiliser en méthanisation pour chauffer ou des choses comme ça. Et ensuite, nous, le liquide, on va le garder, on va les mettre dans des cuves de fermentation où là, on va ajouter de la levure.
Oui.
Et c'est cette levure qui va manger le sucre et transformer notre sucre en alcool pour obtenir une bière de malt qui va titrer entre 5 et 8 degrés d'alcool.
D'accord.
Finalement, c'est 6-8 degrés pour nous.
Ok. Et à quel moment tu les mets dans des fûts ? Il faut distiller après ?
Oui. Après, on prend ce qu'on appelle cette bière de malt.
Ouais.
On la met dans un alambic.
Oui.
Suivant, il y a plusieurs manières.
Tout est en cuivre ou comme
pas
à l'époque,
forcément aujourd'hui. Alors normalement oui. En tout cas, il y a toujours une étape en cuivre qui est la dernière.
C'est une importance le cuivre.
On peut distiller une fois, deux fois ou trois fois. Hein, ça dépend des
alambics.
Okay. Pour le whisky. Hein.
Okay.
Oui, le cuivre en fait, on s'aperçoit que dans la distillation, ça apporte un peu c'est important pour la tenue de notre distillat et puis pour le goût.
D'accord. Okay.
Donc finalement il y a on voit que le cuivre est important dans
D'accord,
la distillation. Après, il y a une distillerie très jeune qui vient de se lancer en France, qui a innové, qui a un premier alambic en inox et son deuxième en cuivre, qui est la distillerie du Vercors, qui est une très belle distillerie et qui a une approche un peu différente. Elle va distiller à basse pression, donc à basse température, pardon.
D'accord.
C'est-à-dire que la distillation, le principe, c'est de séparer l'alcool de l'eau. On va chauffer. Quand on chauffe, l'alcool s'évapore
c'est ça, ouais.
avant l'eau,
d'accord.
Suivant la température. Donc, Donc on va récupérer, nous, ces petites gouttes, ces vapeurs d'alcool qui vont se retransformer en petites gouttes et qui après vont couler comme si on ouvrait un robinet d'eau. Hein.
Ouais, ouais.
C'est blanc, c'est transparent, et puis mais ça titre 70 degrés à la fin. Donc c'est un peu fort. Et donc bon, cette distillerie, j'en parlais parce que voilà, elle a fait un choix. Elle a observé. C'est comme si on prenait un gigot. On va choisir de le cuire pendant 7 heures ou de le cuire rapidement.
Oui.
Et ben on va pas avoir les mêmes goûts. Et donc lui, il a une approche un peu différente. Donc il a avec un alambic en inox. Donc c'est intéressant parce que donc il y a pas que du cuivre. Mais
d'accord.
Son deuxième alambic est en cuivre.
Okay.
Donc voilà, c'est un côté un peu innovateur. Je crois que c'est le premier, si je ne me trompe pas.
Je mettrai les liens, donc la distillerie du Vercors. Je mettrai les liens, il y a un article qui te sera dédié sur le site internet du podcast. Donc je mettrai les liens vers cette distillerie si ça peut intéresser les auditeurs.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc
il y a d'autres belles distilleries en France.
De toute façon, tout ce que tu vas citer, je vais faire une liste à la fin. Alors, allez voir ça, tout ce qui est conseillé.
Il va y en avoir beaucoup. Hein.
Ok, et donc à la fin, tu en parlais, toi, sur l'assemblage et sur la mise en fût, d'abord pour faire vieillir le whisky, parce que un whisky ne peut pas avoir l'appellation whisky s'il n'a pas été conservé, s'il ne s'est pas reposé, s'il n'a pas été vieilli pendant ces 3 ans, c'est ça?
Oui, exactement,
voilà.
Bravo.
Et donc,
donc une fois qu'on a distillé,
ouais.
On a un distillat, un jus,
oui,
blanc, qu'on va mettre en barrique,
ouais,
donc en fût de vin,
ouais,
en fût, pardon, de bois.
Oui.
Ces fûts doivent être inférieurs à 700 litres en capacité. Donc c'est des fûts qui ne doivent pas contenir plus de 700 litres de liquide.
D'accord.
Donc,
pourquoi 700
Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant dans le whisky, ça c'est historique après.
Ah c'est, d'accord, c'est, ok.
Voilà, c'est les Écossais qui ont à un moment... eux, ils font du whisky depuis 200 ans. Donc, ils ont un peu instauré des manières de faire.
D'accord.
Et en fait, à un moment, ils ont dû réguler.
D'accord.
Et dire, bah voilà, un whisky, ça doit être vieilli au moins 3 ans et dans des fûts de moins de 700 litres.
Ok.
Pourquoi? Parce que l'échange entre le bois et le jus est important.
D'accord.
Et si on fait vieillir dans des fûts beaucoup plus grands, comme ce qu'on appelle des foudres, et ben la surface d'échange entre le bois et le liquide sera moins importante.
D'accord.
Donc, gustativement, on ne va pas, okay, aller trouver les mêmes choses.
Je comprends. D'accord.
Bon, pour la petite histoire, aux États-Unis, ils ont le droit de faire vieillir que 2 ans.
Ah,
ouais. Donc c'est pareil, c'est historique. Donc eux, leurs whisky sont vieillis au moins 2 ans. Alors est-ce que c'est commercial? Parce que comme ça ils peuvent vendre plus vite, je sais pas. Mais en tout cas c'est aussi des choix historiques. Chacun a un moment créé avec sa manière de faire.
D'accord, donc ça vieillit puis après c'est mis en bouteille. Alors Simple Cask, tu disais, c'est soit pris dans un fût, un seul et même fût, et donc c'est mis en bouteille et c'est vendu. Ou alors on fait un assemblage d'une seule distillerie ou entre des distilleries, puis après mis en bouteille et mis à la vente. Ok,
ouais.
D'accord. On en revient à toi, donc au commencement de ta maison d'édition de whisky. Comment tu te lances? Donc tu choisis de faire un tour de France et de travailler avec les distilleries qui te plaisent, qui te parlent, avec qui t'as un bon contact et qui font du bon boulot pour ton goût. Mais comment concrètement, comment on crée son premier whisky?
Alors d'abord en visitant, donc,
ouais,
j'ai fait mon petit tour de France de distillerie. Et puis après... donc je me suis aperçu au bout de... J'avais pris 6 mois pour me dire de quelle manière je me lance. Et au, ouais, bout de 6 mois, je me suis dit non, mais en fait, il ne faut pas que j'aie de distillerie. Moi, je veux travailler avec différents partenaires.
Et t'en parles autour de toi, je ne sais pas si t'es marié ou si ta famille, tes parents, j'en sais rien. Quand tu leur dis je vais monter ma maison de whisky, quelles sont les réactions?
J'en parle.
Je vais monter ma boîte. Les gens...
Bah déjà, quand on crée sa boîte, alors moi je suis marié, hein, j'ai 3 enfants. Quand on crée sa boîte, on la crée pas seule, c'est-à-dire,
ouais,
que c'est un choix à deux. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, et je pense que c'est important, parce que ça implique un investissement forcément de soi important. Ça,
oui,
ça implique des risques aussi, on prend,
ouais,
des risques, hein, on renonce à des choses. J'étais bien payé avant, j'avais une belle carrière que je pouvais continuer,
ouais,
dans des beaux domaines. Donc c'est un choix à deux avec ma femme. Elle m'a dit, écoute, vas-y, lance-toi, ça fait déjà 5 ans que tu m'en parles.
J'en peux plus.
J'en peux plus, vas-y. Voilà, mais voilà, c'était un vrai soutien.
Ouais.
Et donc voilà, parce que j'étais pas rémunéré au début. Hein. Pendant 2 ans et demi, je me suis pas rémunéré.
Oui.
Et après voilà, la France est bien faite. C'est-à-dire que j'avais fait une rupture à l'époque conventionnelle avec mon entreprise d'avant. Et elle soutient vraiment d'une manière top les entrepreneurs,
ouais,
en disant, bah voilà, soit vous retrouvez un boulot, soit on vous soutient et si vous voulez créer votre boîte, et vous pourrez toucher des indemnités pour vous permettre de vous lancer, quoi. Et je trouve que ça, c'est le meilleur des sponsors, on va dire. Et donc voilà, et donc quand on se lance, on en parle. Il faut en parler autour de soi, pour moi. Enfin, évidemment, on n'est pas les seuls à avoir cette idée au même moment, mais c'est normal. Après, il faut savoir si on, de quelle manière on veut l'exécuter, et puis il faut y aller, hein, faut donner de l'énergie. Et donc on en parle, et donc il y a des gens qui sont qui vous disent tout de suite, non mais vas-y Benjamin, t'es fait pour ça. On te voit tellement bien là-dessus. Moi, je suis allé voir, évidemment, j'en ai parlé à ma famille, mais c'est pas ma famille, généralement, enfin voilà, ils sont plutôt à vous soutenir. Après, il peut y avoir des peurs en disant, attends, tu te lances là-dedans, mais t'as vu, puis c'est très français de dire, voilà, de dire, il y a plein de barrières. Donc, donc oui, il y a plein de barrières, mais c'est normal, il faut ouvrir les portes, hein. Il faut être persévérant. Donc, mais après, je suis surtout allé voir, moi, les gens que je connaissais dans l'univers.
Dans le milieu,
voilà, des producteurs, des industriels, des sommeliers. Et je suis allé voir en particulier des gens qui étaient pour moi un peu des experts du whisky en France pour partager un peu mon approche. Et donc, j'en ai parlé, entre autres, avec l'ancien directeur du Forum, qui était le bar à whisky en France. Il y a deux bars à whisky, pour moi, en France, qui sont incroyables. C'était le Forum, qui malheureusement a fermé. Mais c'était une bible du whisky. Puis le Harris Bar, à Paris, qui est toujours ouvert. On peut déguster des whiskies magnifiques là-bas. Et donc, Xavier Lay, qui est l'ancien directeur du Forum, est un ami. Et j'ai discuté, j'ai échangé avec lui. Et puis, il m'a dit, non, mais vas-y, Benjamin... et c'est génial ton approche. Enfin, là, quand tu me parles de tes whiskies, tu me parles du goût. Et ça se voit que tu as le goût que tu veux créer, tu l'as en tête. Donc, évidemment, travailler à l'envers et se dire, penser au goût et vouloir le recréer et travailler que sur l'assemblage, tu vas y arriver. Et puis, j'espère être le premier à goûter, quoi.
Donc, voilà. Prends un ticket. Et tu te lances tout seul ? Ou tu t'es dit, je vais prendre un associé parce que comme ça on va répartir les risques, c'est dit comme ça.
Non,
c'est
mais alors
très
je
joli,
cherchais
mais...
un associé, ouais. Je cherchais mon binôme qui puisse lui s'investir dans la prod.
Ok.
Et je cherchais vraiment ça parce que moi je sais le goût que je veux créer, et puis après j'ai des compétences en commercial et en marketing avec un réseau en plus dans cet univers. Donc je cherchais vraiment la personne qui puisse m'appuyer sur la prod, je l'ai pas trouvé. Okay. On dit souvent qu'il faut mieux être pas accompagné que mal accompagné. Je pense que c'est vrai. J'ai vu pas mal, moi, d'amis qui ont créé leur boîte et qui, malheureusement, alors qu'ils avaient des produits géniaux qui fonctionnaient, ça a cassé à cause de ça. Donc je me suis dit, tant pis, j'y vais et puis je trouverai plus tard.
Oui, ça viendra. Voilà. La personne viendra.
En revanche, j'ai choisi de m'accompagner et de m'entourer de j'ai fait comme un comité de conseil où j'ai des espèces de sponsors, entre guillemets, que je vais voir régulièrement pour partager un peu des problématiques que j'ai sur mon univers.
D'accord. Donc pendant le processus de création d'entreprise, est-ce que tu rentres dans des groupements d'entrepreneurs, tu fais une formation à l'entrepreneuriat, je sais pas, des choses comme ça, est-ce que tu as songé ou
Alors j'ai fait l'entrepreneuriat, j'avais déjà fait.
Tu connaissais un petit peu.
J'étais intrapreneur, mais voilà. Si il y avait Pôle emploi peut avoir des choses, j'ai fait des choses avec Pôle emploi pour créer un business plan, que ça soit qu'on puisse le vendre soit à des futurs business angels, soit aux banques. Ouais. Donc ça, c'est important parce qu'il faut financer.
Oui,
il
faut de l'argent. Voilà.
Donc ça, ils ont vraiment, ils accompagnent bien en tout cas les entrepreneurs. Et puis dans un second temps, moi, je me suis inscrit au réseau Entreprendre.
Oui.
Donc j'étais lauréat du réseau Entreprendre à Paris, qui est un réseau qui est top parce que c'est le but, c'est d'appuyer et d'accompagner les entrepreneurs pendant 2 ans. Alors il y a une partie financière avec un prêt d'honneur, je dirais que c'est pas ce que je cherchais en premier. Moi, je cherchais d'abord à avoir un coach et un rendez-vous régulier avec, une fois par mois, il y a une personne qui est un dirigeant de grande boîte ou qui est quelqu'un à la retraite, mais qui est
un mentor, quoi, qui te booste et qui peut répondre à tes questions quand c'est pas trop questions techniques.
Exactement. Et qui permet de prendre du recul aussi sur l'opérationnel. Et donc ça, c'est top, parce qu'il faut être accompagné quand on crée sa boîte. J'ai beaucoup aimé ce point là et puis on avait un club où on était regroupés par 10 ou 15 entrepreneurs et on se voyait aussi tous les mois pour partager des problématiques qu'on a. Et quand on entreprend, quand on crée sa boîte, en fait, on est seul. On peut avoir des équipes, mais si on commence à partager nos angoisses à nos équipes, ben, ça se ressent dans le travail de chacun et donc c'est pas bon. Et chacun, on va dire, sa mission. Nous, on est là pour diriger, on va dire, le bateau, dire où on va. Et on n'est pas là pour dire « Ah oui, il peut y avoir ça comme
rythme. » Voilà. C'est ça, c'est à toi d'être solide pour que tes équipes, après, aient confiance et fassent leur boulot de façon détendue, enfin voilà, et efficacement, quoi. Donc, tu ne peux pas leur envoyer du stress.
Et pourtant, on a besoin de partager. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de partager. J'ai besoin de partager... mes réflexions, et donc c'est important de le partager avec, même si c'est des gens qui viennent d'autres univers, d'autres entrepreneurs, en fait, vont avoir les mêmes problématiques.
Mais adaptées à leur savoir-faire et à leurs industries différentes, et parfois tu as les mêmes soucis, même quand tu viens de domaines totalement différents.
Oui, exactement.
Donc c'est l'intérêt des groupements. Comment alors c'est quoi ton premier whisky? Comment tu te lances? Comment tu crées ton premier
C'était l'été 2016. Quand j'avais choisi mon modèle, c'est-à-dire de pas avoir de distillerie. Je suis allé voir mon premier partenaire avec qui j'ai travaillé et avec qui on s'est très bien entendu tout de suite. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux t'acheter du whisky et travailler l'assemblage pour créer Marcette? Donc c'est la maison de la Mirabelle, qui est une distillerie lorraine, qui fait du whisky depuis 20 ans et qui fait en revanche de la Mirabelle depuis 150 ans.
Ah oui.
Et eux, ils sont agriculteurs à l'origine, leurs céréales, ils produisent leurs propres céréales, ils ont aussi des vergers de Mirabelle évidemment aussi. Ils ont le savoir-faire de la distillation du fruit, et puis ils créent une autre vie de céréales pour créer des whisky qui est top, quoi.
Ah oui, on en a pas parlé, tu avais parlé de l'eau de vie de fruits, mais tu avais parlé aussi du gin. Pourquoi tu t'es pas lancé dans le gin alors finalement?
Parce que à l'époque, en 2016, il y avait déjà trop de marques qui se lançaient. Et je me suis dit, bon, moi je vais pas courir différents lièvres à la fois. Le whisky ça reste mon lièvre principal, c'est d'abord ça que je veux créer.
Ok. Donc la maison de la Mirabelle.
Exactement.
Ils te donnent, tu leur achètes du whisky en fait.
Oui, en fait, alors là, évidemment, lancer un whisky, soit on attend au moins 3 ans, moi je suis arrivé avec Marcette, en fait, j'avais déjà écrit, dans l'échange avec Christophe, c'était de dire, je lui dis voilà moi ce que je veux faire. Et en fait, j'avais déjà écrit Marcette, j'avais déjà pensé mes deux premiers whisky qui sont vert printanier. Vert printanier et fin de partie.
D'accord.
Et j'avais déjà écrit toutes mes aromatiques, le nez, la bouche, la finale, le type de whisky que je voulais. En fait, je travaille à l'envers, je dis souvent, mon point de départ pour créer un whisky, c'est pas la distillation, c'est l'écriture.
D'accord.
C'est-à-dire que je pense mon whisky d'abord sur le papier.
En fait, t'es un compositeur de musique. Ça me fait penser, tu sais, au film, je sais pas pourquoi j'ai ce film, depuis que tu me parles de comment tu travailles. J'ai été Amadeus de Milos Forman. Mozart est un peu il dépeint comme tu vois un peu taré, mais tu vois c'est il a un truc en tête, il est obsessif, enfin je dis pas que t'es obsessif, mais tu sais c'est un peu genre je sais, et tout d'un coup il se précipite, tu sais il y a des scènes où il se précipite pour écrire, puis il écrit vite parce qu'il faut que ça sorte et que tu vois ça se mette en musique, en fait, ça me fait penser un peu à ça.
Il y a un peu de ça, hein. Enfin c'est un peu ça, c'est moi j'ai des recettes en tête, des goûts, des aromatiques que j'arrive à écrire sur le papier. Et donc, de temps en temps, c'est des musicalités, des odeurs que je vais transformer en couleurs et que je vais transformer en aromatiques, finalement.
D'accord.
Mais il y a un peu de ça. Mais c'est marrant parce que j'ai beaucoup aimé ce film quand j'étais jeune.
J'ai usé la cassette vidéo à l'époque, la VHS. c'est un chef-d'œuvre. Enfin bref, ok. Donc c'était quoi, qu'est-ce que tu avais écrit pour ces deux premiers whisky? Qu'est-ce que tu voulais?
Alors en fait, je t'ai parlé d'un whisky où j'avais cette note de noisette très fraîche là, et elle était toujours à Montréal. Et c'était un whisky très clair. Et je l'avais encore en tête, celui-là, cette notion de fraîcheur. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien créer un whisky qui puisse être frais, qu'on puisse définir comme frais.
Okay.
Parce que l'été, quand on avait des cocktails ou des mariages de famille, moi, je ne buvais pas de champagne, ce n'était pas mon truc, mais je prenais toujours un whisky Perrier. Parce que il faisait chaud, il faisait 30 degrés, mais je voulais quand même quelque chose de frais et je voulais un goût qui me plaise. Donc je rajoutais du Perrier avec de la glace. C'est très commun au Japon, ça s'appelle le highball. C'est très rafraîchissant, en fait, ça te permet de pas avoir uniquement la puissance alcoolique du whisky, mais juste avoir quelque chose de rafraîchissant avec un goût qui est pas écœurant parce que c'est pas sucré le whisky. Donc c'est ça qui est intéressant. Et je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir créer un whisky qu'on puisse définir comme frais et qu'on puisse consommer même quand il fait chaud, donc au printemps ou l'été. Et j'avais cette notion de fraîcheur en tête et je me suis dit, dans les distillats que j'avais goûté, j'avais pas la noisette, j'ai pas retrouvé aussi, cette noisette aussi fraîche. En revanche, j'avais une poire très juteuse. Vraiment une poire presque de printemps, je dirais, mais bon, même s'il n'y en a pas au printemps. Mais j'avais cette notion en tête, et donc c'est comme ça que j'ai écrit mon whisky. Donc, vers printanier, je voulais écrire un whisky frais, fruité, floral. Des notes de fleurs blanches au nez, des notes de fruits du verger, de la poire, de la mirabelle. Je voulais un whisky avec l'herbe fraîchement coupée, cet esprit un peu. Le printemps, c'est la nature qui renaît, donc on a quelque chose d'assez vif. On commence à tondre nos pelouses, on a cette odeur de gazon juste fraîchement coupé. Mmh. J'avais vraiment ça en tête, on a ce soleil qui est là, on est dans un champ d'orge finalement, on n'est pas dans le bois, on est dans le champ d'orge, on a ces premiers rayons de soleil qui vous réchauffent un petit peu, même si le fond de l'air est frais.
Mais ça reste un peu frais. Ouais.
Je voulais créer cette sensation.
D'accord.
Donc j'ai écrit cette sensation sur le papier.
Vaste programme.
Vaste programme, ouais. Mais en plus, pas si évident parce que. Parce que c'est une aromatique pas conventionnelle. Et donc je me suis dit, bon, c'est le premier whisky que je veux écrire, mais je vais quand même écrire tout de suite un autre whisky un peu plus consensuel.
D'accord.
Qui va s'appeler
oui.
Fin de partie, qui va répondre à un moment de consommation un peu différent, à une humeur différente, qui va être le whisky soit de fin de journée, soit de fin de repas. Mais plus un whisky de relance, dans le sens où on veut tourner la page après une bonne journée de boulot, ou de travail, ou de jardinage.
Moment de détente.
Voilà, exactement.
Qui clôt.
Oui. Et où après un bon repas, on a le palais qui a travaillé, mais je voulais quelque chose qui réveille le palais. Pas le whisky pour se mettre dans un canapé tout seul, et voilà, okay. Mais au contraire pour continuer à passer un moment avec ses amis. Et donc j'ai écrit un whisky où là on était plus sur le fruit cuit, sur des notes épicées qui relèvent, sur une subtilité en bouche, et qui soit assez complémentaire de verre printanier. Donc c'est deux whisky pour moi qui entourent bien un repas. Verre printanier va peut-être annoncer le repas, parce qu'il est très haut dans le palais, c'est comme un verre de champagne avant le repas, on va voir ouais. Quelque chose qui prépare le palais à autre chose. Je le consomme avec des huîtres, moi aussi, de temps en temps, avec du poisson cru, enfin voilà. Et fin de partie, ça va être un peu plus gourmand, un peu plus pâtissier. Donc soit à l'apéritif, avec si on aime bien, avec je sais pas, du pâte à negra, soit après le repas, pour suivre un bon fromage, ou tous les desserts. Tout ce qui est dessert chocolat, praliné, fruits cuits, c'est un whisky qui marche parfaitement. Donc voilà, donc j'ai eu ces deux recettes.
Okay.
En tête, je les ai mis sur le papier. Je suis allé voir la maison de la Mirabelle, qui est mon premier partenaire avec qui j'ai créé mes premiers whisky.
Et lui, tu lui avais parlé de ta démarche, ou quand t'es arrivé, tu lui as dit alors j'ai écrit. Enfin, comment cette personne, ce monsieur qui s'appelle
Christophe Dupic.
Christophe, ouais.
C'est une histoire de rencontre. Après, je lui ai parlé de ma démarche. Enfin ouais. Voilà. Enfin, ce qui est évident, c'est que lui, il crée aussi ses propres whisky.
Oui.
Enfin. Après, une distillerie va pas forcément créer du whisky que pour sa marque, elle va ouais. aussi être ouverte pour créer avec d'autres partenaires, okay. Mais ils peuvent pas travailler avec plein de personnes.
Oui.
Donc c'est une histoire de rencontre et de dire oui, Benjamin, ça m'intéresse de travailler avec lui parce qu'il a une approche créative qui est très définie, il sait où il veut aller et je pense qu'il a bien aimé mon approche parce que déjà j'interprétais son travail différemment. Je valorisais aussi son travail différemment parce que c'est aussi ça qui est important. Mmh. Je pense que on n'est pas là pour faire la même chose. Et en fait, il y a une infinité de possibilités de créer des whisky dès qu'on a deux fûts. Mmh. Parce qu'on va créer des assemblages différents ouais. avec des pourcentages différents. Donc c'est une histoire de rencontre, on s'est bien entendu. Il a bien aimé mon approche. Et puis en fait, il me l'a dit un peu plus tard. Il m'a dit, en fait, Benjamin, quand il est arrivé, il avait tout de suite en tête son cahier des charges, il savait exactement ce qu'il voulait faire et finalement c'est facile.
Ouais.
Ça facilite le travail parce que moi j'arrive, je sais le goût que je veux. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais dire voilà ce que je veux créer comme whisky. Je vais m'adapter parce qu'il n'a pas forcément toutes les envies que je veux, et ou alors il doit garder des choses pour lui.
Oui.
Et après il faut trouver le goût, c'est-à-dire que ensemble on a dégusté plein de fûts différents. Parce que moi je lui parle de poire, et ben voilà, mais il y a plein de types de poire. Est-ce que c'est de la Grassane, est-ce que c'est de la Conférence, est-ce que je sais pas, des Gomis, enfin. Et donc faut sentir. Et après cette poire, est-ce qu'elle est plus ou moins mûre? Donc on va goûter ensemble et je vais dire moi c'est celle-là, moi c'est ce goût-là que je souhaite créer et c'est pas celui-là parce que j'ai eu mon palais qui s'est éduqué différemment. Voilà,
ouais.
Moi j'ai si on parle de fraises, alors fraises, il n'y en a pas forcément dans le whisky, mais moi, les fraises de mon enfance, c'est les fraises de Plougastel, parce que je viens de la région de, de là-bas. Enfin, et c'est pas la fraise, je sais pas, espagnole, entre guillemets, qu'on achète au supermarché qui n'a pas de goût, ou c'est pas la Mara des Bois. Ou la, donc voilà, donc c'est vraiment des goûts différents. Donc on goûte plein de fûts différents, et en fait, après, moi, je commence à travailler mon assemblage, je me disais, bah voilà, j'aimerais bien trouver cet assemblage-là, ce goût-là. Et là, c'est un travail un peu à quatre mains où finalement...
Et quand tu dis que tu lui achètes du whisky, ça veut dire qu'il te vend des...
Il me vend du des stock, fûts, des fûts qu'il a déjà chez lui, en disant, bah, moi, la première chose que... Lui, il fait du whisky sorbet.
D'accord.
C'est ça, c'est sa pâte, enfin, il fait autre chose, hein.
Oui, mais...
Sa pâte principale, sa signature, c'est le whisky tourbé.
D'accord.
Moi, la première chose que je lui demande, c'est est-ce que tu as du whisky non tourbé ? Parce
D'accord.
que je ne vais pas faire du whisky tourbé.
Okay.
J'en ferai plus tard, mais voilà.
Pour l'instant, voilà.
Et donc, j'arrive avec Marcette, et puis, et puis en fait, je lui demande de travailler pour moi un assemblage avec un goût particulier. Et puis on travaille à quatre mains pour travailler mes premiers assemblages. Et là, tout de suite, je crée vers printanier fin de partie, qui sont deux whiskies complètement différents, mais qui ont une âme commune.
D'accord. J'ai lu que, par exemple, pour fin de partie, donc, en fait, le whisky est vieilli dans des ex-fûts de Bourbon, d'Oloroso et de Pedro Jiménez. Qui c'est qui choisit ? Comment on choisit le fût dans lequel on veut faire reposer son whisky ? C'est très...
En fait, c'est comme un orgue de parfum. C'est-à-dire qu'une distillerie va avoir un chai et en fait, c'est ça qui demande du temps. C'est que pour faire un bon whisky, il faut idéalement des whiskies, évidemment, au moins 3 ans d'âge, mais il faut des whiskies plus vieux, de 5, 6, 7 ans, voire encore
temps,
plus vieux.
En fait, ouais.
Donc ça prend du temps. Moi, les premiers whiskies que j'ai fait, vers printanier, fin de partie, j'ai acheté des whiskies qui avaient vieilli entre 4 et 7 ans.
D'accord.
Pour travailler cet assemblage-là. Et après, il faut pouvoir anticiper différentes aromatiques en disant là, je vais mettre des quantités de whisky à vieillir dans les fûts de Bourbon, dans les fûts de Cognac, dans les fûts de vin espagnol, dans des fûts d'autres choses. Et ensuite, on a une base suffisante pour se dire, maintenant, je peux créer mes assemblages. Et donc, c'est là où c'est intéressant. On va dire, notre matière première qui va être les whiskies, le distillat vieilli dans différents fûts.
Mm-hmm.
Et donc, ce distillat vieilli, ce whisky vieilli, ça va être notre matière première pour cuisiner, entre guillemets, pour faire notre assemblage.
Puis, c'est expérimental, en fait, parce que... Certains des whiskies que tu vas... Toi, si tu sélectionnes un fût, parce que j'ai vu que tu fais vieillir des whiskies dans des fûts de... Des anciens fûts de Margaux, des anciens fûts de... on a dit Bourbon, d'eau de vie de gingembre, de vermouth, de cognac, etc. Mais il y a des moments où tu sais pas ce que ça va donner, en fait.
Ah bien sûr.
Et tu te dis, waouh, on va attendre.
Ouais.
Et puis dans 3 ans... Enfin non, tu peux suivre, je pense, régulièrement.
En fait, on
goûter,
peut suivre,
etc.
Voilà, c'est ce qu'il faut.
Et tu peux changer en cours de route si... Ah non, là, ça va pas dans la direction que je
veux.
Ou non, tu attends...
Il faut... Ce qui est vrai, c'est que le vieillissement, le whisky, c'est comme un ado, on va dire, qui grandit. Hein. Donc, il va avoir différentes périodes. Donc, au début, il est très jeune. Donc, il a du peps, il a envie, voilà. C'est l'énergie, ou c'est comme un petit chien, là, il va courir partout. Après, il va avoir une mauvaise période. Donc, la crise d'adolescence, elle n'est pas sympa. Il va être tendu, il va être fort, on ne sait pas pourquoi. On se dit, oula, qu'est-ce qui se passe ?
Ah, donc, il ne faut pas le goûter à ce moment-là, ou si justement,
il faut
le goûter
régulièrement. Ouais, généralement on goûte au moins tous les 6 mois nos fûts, hein.
Okay.
Et après on les teste, et puis au fur et à mesure on va voir, en le testant on va voir ce qu'on veut en faire et où est-ce qu'on veut l'emmener, on va dire.
Mm-hmm.
Et on va dire celui-là il a besoin encore de temps pour mûrir dans ce type de fût, ou alors celui-là on va l'assembler avec un autre
d'accord.
fût en cours, et puis on va le remettre dans un troisième fût.
Ah oui, d'accord.
Ou alors celui-là on va l'enlever parce qu'il est parfait, et on va le mettre dans un fût, ce qu'on appelle un fût neutre.
Okay.
C'est-à-dire, c'est un fût qui a déjà beaucoup servi et où l'échange entre le bois et le jus n'est pas si important.
D'accord.
Parce que dans le vieillissement, ce qui est important, c'est de se dire qu'il va y avoir un échange entre le jus et le bois, entre le distillat, le whisky finalement dans le tonneau, et puis le bois. Et cet échange, il est favorisé par les changements climatiques,
mm-hmm.
donc les différences de pression entre les dépressions et les anticyclones, hein, entre le chaud et le froid, entre la nuit et le jour, entre l'hiver et l'été. Est-ce que notre chai est plus ou moins humide ?
Ouais.
Ça va pouvoir influencer notre échange entre le bois et le jus. Est-ce que notre chai, est ouvert aux quatre vents, à la pluie ou est-ce qu'il y a de la lumière qui rentre. Enfin voilà, il y a plein de choses.
Et la vieillesse du tonneau, du coup, comme tu semblais dire.
Exactement.
Plus est-ce que les vieux, moins des échanges entre le liquide et le bois.
Oui, parce que le whisky, le tonneau aura déjà servi avant.
Voilà, donc tannin,
finalement, les tanins qui sont dans le bois auront déjà été libérés pour d'autres liquides avant.
Okay.
Mais pareil, le fût, c'est une science incroyable.
Ça aussi,
parce que,
ouais. Tu travailles avec des tonneliers. Enfin, je pense que c'est pas enfin, c'est toi qui...
Bah, j'achète certains tonneaux neufs ou d'occasion et ces tonneaux-là, quand on les fait neufs, bah, on les fait sur mesure.
Ouais.
On va choisir l'essence du bois, on va choisir la taille du grain.
C'est important, oui. Le type de bois que tu utilises pour tes tonneaux.
Bah oui, parce que rien que le chêne européen ou le chêne français et puis le chêne américain, ça va apporter deux aromatiques différentes. Donc, et on le sent bien dans le bourbon. Alors, il y a le maïs qui apporte ça, mais le bourbon, c'est toujours très vanillé, très sucré, noix de coco. Enfin, ça vient du chêne américain, qui a beaucoup de vanilline, qui est une substance qui apporte ce goût-là, justement. En Europe, les chênes européens, on va avoir des choses un peu plus, ce qu'on appelle structurées, qui vont donner un peu de force au goût, mais on a beaucoup moins cette vanilline. Donc déjà, l'essence du bois va apporter la taille du grain, donc c'est un peu les veines du bois vont apporter, le type de chauffe, la taille du fût, s'il est plus ou moins gros, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses.
Tous les paramètres à surveiller, fou.
Donc c'est génial, hein, mais après, le problème, c'est que quand on est créatif, on a envie de faire plein de choses.
Ouais, c'est ça.
Donc il faut savoir se contenir.
Ok, donc du coup, tu fais ton assemblage pour fin de partie et d'un verre printanier.
Oui.
Tu trouves l'assemblage parfait avec la maison de la Mirabelle.
Oui.
J'imagine que pour ce qui est bouteille, design des étiquettes, c'est toi qui t'en charges ou tu as fait appel c'est toi ?
C'est moi. Après, alors, donc déjà, le terme d'éditeur de whisky français, moi, je l'ai travaillé avec, avec deux personnes qui m'ont permis, en fait, de. Ce qui est important quand on lance sa marque, c'est aussi que moi, j'ai une approche un peu particulière dans le whisky. Donc, je voulais être certain qu'on comprenne en un mot ou en une phrase mon approche.
D'accord.
Et je trouvais que le terme qui reflétait le plus mon travail, c'était éditeur de whisky français. Pourquoi ? Parce que quand je me suis lancé, j'avais envie de répondre à la question, si nous, les Français, on avait inventé le whisky...
Qu'est-ce que ça donnerait ?
Voilà, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Quelle direction on aurait prise ? Donc, j'avais cette envie-là et je trouve que le terme d'éditeur, il reflète bien mon travail parce que éditer, c'est quoi pour moi ? C'est créer une collection avec un chef d'orchestre, et le chef d'orchestre, c'est moi. C'est-à-dire que c'est l'écrivain, entre guillemets, c'est moi, puisque c'est moi qui écris mes recettes et mes goûts. Et éditer, c'est aussi sélectionner des partenaires et aller chercher un peu les partenaires avec qui je veux travailler, parce que je trouve que je vais bien créer ce whisky-là avec lui, parce que je le sélectionne pour sa manière de produire. Je veux que ça soit un très bon producteur. Mais c'est aussi s'entourer. Et c'est s'entourer de producteurs de distilleries, mais aussi de céréaliers, ou aussi, comme je le fais, le travail que je fais pour le goût du whisky, je le fais aussi sur... en fait, l'approche, je voulais aussi rafraîchir un peu l'image du whisky, en disant, nous, on a un vrai héritage en France, on a un vrai savoir-faire en matière de vin et spiritueux. Et moi, je veux m'appuyer sur ce terroir, sur ce savoir-faire pour créer un bon produit. Mais je veux aussi rafraîchir un peu l'image du whisky parce que pour moi, en tant que Français, on a un art de vivre, on va pas cantonner la consommation du whisky à un fauteuil club avec un monsieur et un cigare. Pour moi, c'est
Oui, c'est un peu l'image d'Épinal qu'on a de la consommation du whisky, c'est vrai.
Ouais. Et qui est pas désagréable,
oui,
que j'aime bien aussi, mais
moi
j'avoue, moi dans ma famille, c'est ma grand-mère, c'est ma mère qui apprécie. Alors mon père
moi,
également.
C'est ma mère qui boit du whisky.
Voilà, qui apprécie le whisky et donc. J'ai jamais vu juste une personne, une catégorie particulière. Voilà, il n'y a pas de, pas d'âge, il n'y a pas de sexe.
Ma mère, ça lui arrive de fumer des cigares et de boire du. Ouais.
Voilà, donc.
donc
je ne sais pas pourquoi, dans l'imaginaire collectif.
C'est Winston Churchill.
Peut-être.
C'est le cigare, le whisky.
Voilà,
tu
puis
vois.
Il y avait les fumoirs qui étaient réservés aux hommes.
Les fumoirs aux hommes dans les clubs anglais. Alors.
C'est comme ça. Mais en tout cas, moi, je me dis, mais il faut s'affranchir de ça. Et puis. Et je me suis dit, je veux que quand quelqu'un regarde ma bouteille, que finalement le goût qu'il y a à l'intérieur et le goût que je veux partager, on puisse se l'approprier en regardant le nom du whisky et puis, l'illustration.
Ouais.
Et donc le brief que je fais sur ce que j'imagine pour créer mon goût, je fais la même chose pour recréer le nom ou l'illustration. Et je m'entoure, j'ai une plume qui m'aide à écrire et à trouver mes noms. Et j'ai un illustrateur qui va, à qui je donne les images. Donc la plume, je lui dis, voilà le type de whisky que je veux créer. Je me suis inspiré de tel moment de consommation, telle humeur. Voilà l'imaginaire que j'ai. Voilà les types de noms que j'ai en tête. Mais bon, le goût n'est pas complètement fini. Donc est-ce que tu peux m'aider à trouver des noms qui vont peut-être faire tilt au goût que j'ai créé? Et c'est pareil pour l'illustrateur. Je lui donne des éléments. Et généralement, c'est des éléments qui se rapprochent à la dégustation. C'est-à-dire que, je sais pas, vers printanier, on va voir, il y a ce soleil de printemps, il y a des herbes un peu toutes folles, il y a une branche de poirier. Enfin voilà, c'est vraiment des aromatiques qu'on va retrouver, moi, dans mon whisky. Et donc, je donne des éléments et après, bah, on crée une composition pour faire en sorte de dire, bah, si je suis pas là, si j'ai pas un sommelier ou un caviste pour parler de mes whisky, bah, que la personne
consommateur
puisse s'imaginer.
Comprenne directement en voyant juste la bouteille.
Oui.
Puis pour la mise en bouteille, les trucs comme ça, enfin, tu trouves.
Bah, je fais chez mes partenaires.
Oh, d'accord.
Ou alors chez des embouteilleurs, donc on leur envoie le whisky, les bouteilles, les étiquettes. Enfin voilà, bon, ça c'est.
Ok, eux ils font le.
Et eux ils font et. Après, voilà, moi j'aime bien aussi aller sur le terrain et donc toujours être là, présent dès que je peux, parce que on se rend compte de petites choses. Déjà, c'est beau, c'est sympa. et puis c'est bien de mettre la main à la pâte. Enfin, ouais. Voilà, moi j'aime bien ça. Et puis on se rend compte de petits détails bêtes. Ah oui, ce carton, il faut plutôt que je le mette comme ça. C'est plus facile après pour la manutention, où on gagne tant de. Enfin, c'est des trucs cons, mais c'est important de, voilà, okay, de connaître toutes les étapes.
Donc tu crées fin de partie et d'un verre printanier.
Donc ça, on est au printemps, voilà. 2017.
Tu le fais goûter.
Je le fais goûter, évidemment.
Ouais. Est-ce que tu as un peu les chocottes je ne sais
bah,
pas,
oui,
qui va te dire quelque chose. Enfin, je sais pas, tu lances deux produits. C'est les deux produits qui vont représenter, enfin, qui vont marquer le lancement de ta maison.
Ouais, c'est la signature, c'est les premiers.
Hein. Donc, comment tu te sens?
Je me sens, moi déjà, c'est des produits. Alors, je me dis, bah, en fait, voilà, moi j'ai créé ces produits, ouais, pour moi d'abord. C'est,
oui,
très personnel. Donc, je sais que je les aime. Mais après, voilà, c'est comme
les
un cuisinier,
hein,
voilà, ou un parfumeur. Ouais. Est-ce que les gens vont pas forcément aimer le goût de l'autre? Donc je l'ai fait tester. Ce qui m'intéressait, c'était pas forcément est-ce que c'est un whisky à leur goût ou pas, mais est-ce que ils vont le décrire de la manière dans laquelle je l'ai pensé.
Oui.
Et donc je vais revoir d'ailleurs Xavier Legg, qui est le premier à qui j'ai fait goûter, je pense, vers printanier. Je lui dis, voilà le whisky que je veux créer, qu'est-ce que t'en penses? Il le sent déjà, il me dit, ah ouais, mais alors là c'est exactement ce que tu m'as dit. Il le goûte, il me dit, ah, mais c'est parfait. Enfin, c'est exactement le whisky que tu m'as décrit et il est très bon, il est très bien fait, et donc vas-y, quoi. Tu te trompes pas, t'as pas besoin de moi, enfin voilà. Et en fait, je me suis amusé à faire déguster à une quinzaine de personnes autour,
d'accord,
de moi, des experts ou non des spiritueux ou du whisky, et puis des amateurs,
ouais,
aussi, qui sont juste amateurs, mais pour voir un peu
les réactions
sur le printanier, fin de partie. Et tout de suite, bah, ça s'est très bien passé, c'est-à-dire qu'ils m'ont tout de suite fait des retours assez positif, hein,
ouais,
alors je leur demandais voilà, d'être très neutre. Et ce qui est marrant, c'est que tout de suite, il y a eu j'aime celui-là et j'aime moins celui-là. Enfin, il y avait tout de suite deux clans.
Des clans.
et c'est très bien parce que c'est ce que je voulais faire,
ouais,
finalement.
Ouais.
Moi, j'écris mes whisky, j'ai une gamme assez complémentaire qui répond à, voilà, différents moments, différentes humeurs.
D'accord.
Et c'est comme ça que ça se ressent, donc c'est parfait.
Et ensuite, arrive le moment où tu le mets en vente.
Oui.
Voilà, tu as combien de bouteilles au début?
Au début, j'ai dû en faire 1500 de chaque.
Ok, oui, c'est petit, quoi.
Enfin, ah oui, c'est petit, bien sûr.
Ouais. Okay.
C'est petit, mais je dirais, bah, moi, j'ai pas beaucoup de moyens, donc j'y vais doucement.
Oui, doucement, ouais.
Puis c'est, voilà, faut investir, hein, donc on a investi doucement, et puis il faut être sûr de. Le whisky français, c'est une mini catégorie. Aujourd'hui, on commence à en parler un peu, mais ça reste tout petit par rapport à ce qu'on consomme déjà rien qu'en France. Et donc je me lance, mon premier client c'est un resto étoilé, le Violon d'Ingres, Christian Constant, qui est dans le 7e, et c'est génial parce que
rien que ça,
c'est bien de commencer par
rien que lui,
voilà.
Oh.
c'est une rencontre avec son sommelier et, qui a beaucoup aimé mes whisky, et donc c'est sympa, tout de suite on se dit bon bah au moins, enfin voilà, ça conforte encore le fait que en tout cas mon produit plaît, le goût plaît. Et c'est ce qui m'apportait, c'est d'abord le goût.
Donc tu vends d'abord à des professionnels, ensuite ton site internet, il est monté entre-temps, et nous on peut, enfin nous, oui, les consommateurs peuvent aller acheter quelques bouteilles.
Moi, alors mon réseau de distribution, c'est d'abord les professionnels, donc les cavistes.
C'est toi qui fais directement le lien avec eux ou
J'ai un distributeur qui
d'accord.
m'aide,
okay.
qui va visiter des cavistes et puis des restaurants.
Tu peux pas tout gérer au bout d'un moment.
Non, on peut pas. Enfin, moi, il faut que je me concentre sur la prod.
C'est ça.
Et puis aussi sur le commercial et puis le marketing, la communication. Ouais. Mais bon,
voilà. Parce que tu avais fait un peu de pub avant de lancer
Non, pas du tout.
Non, c'est vraiment...
J'ai pas les moyens.
Non, mais pas de la pub, mais toi, ouvert ton Instagram et ta vie, enfin, tu vois.
J'ai fait un crowdfunding.
D'accord, ok.
Donc, où j'ai fait des préventes, mais et quand je l'ai lancé, je l'ai fait que avec mon réseau et j'avais pas encore le visuel de ma bouteille, j'avais juste une visuelle vierge, j'avais pas les noms, j'avais rien. Donc, les gens me.
Confiance.
Ah oui, ils m'ont fait confiance. Hein.
On verra bien.
J'ai explosé mes objectifs, mais non, ils me faisaient confiance, je pense qu'ils me connaissaient et qu'en fait, ils se sont dit non, mais on sait que ça va être très bon et puis ils voulaient me soutenir. Mais c'était pas uniquement des gens de mon premier cercle,
hein, ouais.
Donc c'est sympa.
Oui, merci
à eux. Merci à eux. c'est grâce à eux que je suis là. Et après, évidemment, il faut être multicanal aujourd'hui, donc il faut pouvoir vendre d'abord chez les cavistes indépendants,
ouais.
Parce que c'est eux qui vont relayer, et déjà qui vont valider finalement s'ils aiment le produit, et puis après qu'ils vont le relayer. Dans la restauration, dans les hôtels évidemment, et ensuite sur internet, parce qu'on n'est pas vendu partout et qu'aujourd'hui en tant que consommateur moi je privilégie la vente et l'achat chez les cavistes parce que voilà, c'est, j'aime bien l'échange, j'aime bien le conseil, puis on va toujours prendre autre chose en plus à côté. Après voilà, quand on n'a pas le temps, et ben, on connaît la marque, on achète sur internet, oui. Et puis de temps en temps on se fait livrer.
Est-ce que tu avais peur de parce que tu as eu des retours de tes proches? Mais une fois que c'est sur ton site internet et que tout le monde peut l'acheter, est-ce que tu avais peur, tu sais, je lisais des avis sur des sites spécialisés avec des espèces de plein de gens qui peuvent mettre leur avis, etc. Est-ce que tu avais une crainte de la réception de gens que tu connais pas, des consommateurs?
Bah oui, parce que c'est un peu effrayant. Moi, je suis pas de la génération. Enfin, voilà, j'ai 43 ans, je suis de 78, mais. Internet est arrivé quand j'étais encore étudiant à Dauphine, quoi. Donc j'avais 20 ans, c'était le début. Et là, ce qui est vrai, c'est qu'on voit l'impact. Enfin, c'est un peu effrayant. La notoriété d'une marque, elle peut être descendue sur Internet parce qu'à un moment, je sais pas, il va y avoir un acharnement sur un produit qui peut-être peut avoir un défaut. Et donc c'est un peu effrayant. Et donc oui, forcément, on se dit bon, comment on va être reçu. Surtout que moi, j'arrive avec une approche différente, c'est-à-dire que
oui, c'est pas traditionnel, quoi. C'est
pas traditionnel. Donc il faut que les gens comprennent mon approche.
Déjà l'idée, ouais.
Voilà,
et ensuite,
comment je crée mes whisky. Et puis après, en plus, mes étiquettes, elles sont rien à voir avec du classique. Et le whisky, on a un imaginatif et un ami plutôt assez conventionnel. Donc, mais en fait, ça a été très bien reçu. Alors
Ah oui, c'est plutôt pas mal noté, hein. Les critiques sont plutôt bonnes, hein, sur tous tes whiskies différentes. C'est parce que quand j'ai bossé sur chacun de tes whiskies pour voir où c'était fait, etc. Enfin, les gens sont plutôt contents. Enfin, il n'y a rien qui dit c'est horrible, c'est dégueu. Enfin,
non, il n'y a rien. Et donc, tant mieux, ça veut dire que les gens apprécient mon goût et qu'aujourd'hui, on ne se fie pas uniquement au marketing, mais on se fie au goût.
Ouais.
Et je trouve qu'il y a un vrai retour sur le goût auprès des consommateurs. Et voilà, c'est pas parce qu'on en a vu des pubs ou des machins qu'on aime. Enfin, voilà.
Après, peut-être que c'est aussi le prix. Non pas que tes whisky soient chers, mais c'est quoi? C'est une cinquantaine, une soixantaine d'euros, on va dire, une bouteille. Ce qui fait que ça s'adresse quand même à des personnes qui... font le choix de mettre de l'argent dans une bouteille de whisky. C'est pas le whisky que t'achètes, c'est pas, il y a rien de méchant là-dedans, mais tu sais, le whisky Grant que t'achètes au supermarché, je sais pas si c'est du whisky, mais voilà.
Moi mes whisky coûtent cher parce que ça coûte cher à produire, parce que je fais des plus petites quantités et que je vais chercher des goûts particuliers. Après mettre plus de 50 euros voire 80 euros pour certaines bouteilles sur des whiskies qu'on connaît pas, c'est pas évident.
Oui.
Parce qu'au même prix, on a quelque chose de très bon d'une marque qu'on connaît parfaitement et qui a 200 ans d'existence.
Ouais.
Donc il y a un vrai pari aussi et un vrai travail sur le terrain pour faire goûter, pour expliquer et puis pour convaincre. Et donc ça met du temps. Moi, je vais doucement. Créer une marque et un spiritueux, le but, c'est pas enfin, moi, le but, c'est d'être là encore dans 100 ans, hein, donc de créer longtemps. Donc, faut prendre le temps, faut pas aller trop vite.
Ouais.
Et donc, oui, il faut convaincre.
Tu parlais de temps jusque-là, à l'instant. Combien de temps ça t'a pris donc pour créer Fin de Partie et D'un Verre Printanier? Et combien de temps tu prends pour créer justement tes whiskies, sans parler de ceux qui sont en train de vieillir?
Ouais. Bon, je dirais entre la recette et puis la mise en bouteille, généralement c'est un an. Quoi.
Ah oui, voilà. D'accord.
Après, j'ai certains whiskies où c'est plus long.
Oui. T'en as combien maintenant?
Là, j'ai 5 whiskies permanents.
Ouais.
Donc, qui sont vraiment ma gamme, qui vont répondre à différents moments de consommation ou humeur. Et après, j'ai des séries limitées. En ce moment, j'ai 3 séries limitées.
D'accord.
Donc, qui sont des whiskies plus. Je dis souvent, ma gamme permanente, c'est des whiskies de partage. C'est-à-dire qu'ils vont entourer un repas ou un cocktail ou un moment de consommation. Qui vont être des whiskies, entre guillemets, plus faciles à déguster parce qu'ils ont une aromatique. Qui va répondre à plein de moments de consommation. Et après, mes séries limitées, c'est plus des whiskies de rencontre qui vont être des whiskies plus, je dis, contemplatifs, parce que c'est des whiskies qu'on va apprécier, déguster pendant, je sais pas, 30 minutes, et qui vont être beaucoup plus complexes en bouche et donc qui vont devoir s'ouvrir. Enfin, là, c'est des affinités.
Et donc, dans ces whiskies, il y a notamment le Guip.
Oui, il y a le Guip, il y a aux particules vines, qui sont des affinages en fût de grand vin en France. En ce moment, il y a Inouï Mélodie. Et donc ça, c'est des whiskies de rencontre parce que le Guip, c'est une rencontre avec un charpentier de marine à Brest.
Oui, qui s'appelle Yann Moffret. Je ne sais plus comment ça s'appelle.
Chantier de Guip.
Chantier de Guip, voilà, ça porte le nom du whisky.
C'est moi qui porte le nom du chantier, je l'ai demandé. En fait, donc moi, mon nom est alsacien, j'ai grandi à Paris, mais voilà, du côté de ma mère, on vient de Brest. Même après Brest, il y a un truc. On vient de la Pointe-Saint-Mathieu. voilà, et du côté de mon père, en fait, mes grands-parents étaient dans le Berry. Donc finalement, je ne suis pas un vrai Parisien dans le sens où dès qu'on pouvait s'échapper en Bretagne ou dans le Berry, on y allait.
Ouais.
Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de moments là-bas. J'ai appris à naviguer là-bas. Et depuis que je suis petit, je fais du bateau. Et je vais voir ce chantier qui est le plus gros chantier d'Europe qui retape des vieux bateaux en bois. C'est le patrimoine mondial de la mer, hein, et c'est des bateaux magnifiques, ce sont des bateaux magnifiques. Et depuis que je suis petit, j'y vais, et puis j'ai eu une rencontre avec lui, je le connais depuis quelques temps, et j'ai eu une rencontre où finalement, dans une discussion, on était au sein de son chantier, et il me disait qu'on s'émerveillait devant une grande pièce de bois, on va dire comme s'il y avait une poutre en bois.
Ouais.
D'un chêne qui avait 150 ou 200 ans,
ouais.
Avec des lignes bien droites, sans nœuds, c'est-à-dire sans départ de branche. Et il me disait que ses concurrents pour acheter des tonneaux, des pièces de bois comme celle-là, c'était les tonneliers. Et donc je lui dis, attends, c'est marrant ce que tu me dis, parce que moi je fais du bateau depuis que je suis petit, j'ai un bateau en bois, j'adore venir te voir et puis voir la manière dont tu travailles. Et je suis aussi producteur de whisky, je travaille avec des tonneliers, je vais visiter des mérandiers, j'aime bien...
Mérandiers,
c'est les personnes qui préparent les douelles, enfin les pièces de bois pour faire les fûts.
D'accord, ok.
Qui vont sélectionner dans la forêt le bois qu'il faut, qui vont le couper et qui vont le préparer, fendre le bois...
Donc, on apprend des mots sur Slice aujourd'hui.
C'est pas mal, hein.
Okay.
C'est vraiment des métiers de passionnés et passionnants. Enfin, moi, j'aime bien.
Hein. Oui.
C'est pareil, il y a une odeur, il y a des sensations. Et donc, je lui dis, moi, j'ai les mêmes envies quand je vais voir un mérandier ou un tonnelier, les mêmes sensations que quand je suis au sein du chantier. Et donc, je lui ai dit, j'aimerais bien écrire un whisky qui reflète un peu, moi, l'univers du chantier du Guip et les sensations que j'ai quand je visite le chantier ou quand je suis sur un bateau et que je reviens de mer. Donc, voilà. Donc, l'histoire est née comme ça. Donc, j'ai créé une aromatique en m'inspirant de ça. Donc, voilà. Moi, un beau bateau, pour moi, c'est un whisky bien... un bateau bien charpenté.
Ouais.
Donc, c'est un bateau qui a une belle ligne, qui est bien droit, qui tient bien la mer... c'est des termes que je peux réutiliser dans le whisky, hein. Bien charpenté, pour moi, c'est-à-dire qu'il a du corps, il arrive, paf, il s'installe tout de suite. Il n'est pas indifférent, on n'est pas indifférent quand on l'a en bouche, comme on n'est pas indifférent quand on voit un beau bateau, on va tourner la tête, quoi. Une belle ligne, c'est-à-dire que pour moi, c'est un whisky qui devait être bien droit. On voit où il va, il va droit dans le palais, il bouge pas quoi. Enfin, donc voilà. Donc c'est une aromatique que j'ai essayé de créer comme ça. Et j'ai essayé aussi après de m'inspirer moi de mes sensations en mer. Et donc en mer, quand on part plusieurs jours en mer et qu'on s'éloigne à 3-4 jours de terre, on perd les odeurs qu'on a de la terre. Et on peut avoir une nostalgie de cette aromatique. Et donc, et d'ailleurs, quand on arrive, quand on s'approche des terres, après, je sais pas, 3 semaines en mer, moi j'ai fini de traverser de l'Atlantique en régate, et quand on arrive aux Caraïbes, 3-4 jours avant, on commence à ressentir des odeurs qu'on n'avait plus. Et en fait, c'est comme cette nostalgie. Et donc, j'ai voulu raconter un peu ça. Ça on peut avoir une quand on est au milieu d'une tempête, on se dit qu'est-ce qu'on fout là, quoi.
Pourquoi?
Et donc, on peut avoir cette nostalgie de la terre. Et je me disais, bah voilà, en tant que marin, on va pas forcément boire en mer parce que voilà, on peut pas se permettre d'être affaibli, on va dire. Mais on va ouvrir une bouteille, juste sentir l'odeur, ça va nous rappeler une odeur qu'on a à terre. Donc j'ai essayé j'ai voulu créer un whisky avec une aromatique justement légèrement tourbée pour rappeler cette odeur de terre aux marins quand il est en mer. Et puis, dès qu'on arrive à terre, après un peu une longue période en mer, on n'a qu'une envie, les marins. Alors, bon, oui, c'est de boire un verre, mais c'est surtout, on n'a qu'une envie, la première chose qui se pose, c'est quand est-ce qu'on repart. Et donc, c'était dans la dégustation, dans l'écriture de whisky, c'était d'écrire une finale un peu saline. Qui rappelle un peu la mer au marin qui revient à terre
et qui boit. T'es jamais loin des œuvres culturelles parce que je t'écoute et là je pense à Pêcheur d'Islande, c'est de Pierre Loti.
Ouais,
et je me dis, ouais, c'est bien. Donc on a Milos Forman avec Amadeus, on a Pierre Loti, tout va bien.
C'est pas mal.
Et donc, le GIP, tu as travaillé avec une distillerie bretonne.
Oui.
Donc c'est la distillerie Waringame.
Waringame à
l'Agnon.
Qui fait le whisky armorique, ouais.
Ok. Et donc c'est vieilli, donc 8 ans dans des fûts à l'Agnon.
Oui. Là c'était assez spécial parce que alors c'est un whisky aujourd'hui qui est en rupture parce que c'est
une série limitée. Oui, t'as fait moins de 400 bouteilles.
Oui.
C'est ça.
En fait, je l'ai fait 4 fois ce whisky. C'est ce qu'on appelle un single casque. Donc c'est un single malt, mais c'est aussi un single casque.
Donc d'un seul tonneau.
Exactement.
C'est ça.
Et en fait, un single casque, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les tonneaux ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a une sélection dans le tonneau.
D'accord.
Moi, au début, je cherchais à faire un single malt classique, donc travailler un assemblage. Oui. Donc c'est pareil, c'est aussi une histoire de rencontre avec David et Erwan de la distillerie là-bas. Et c'est. En fait, je me suis aperçu en goûtant les différents whiskies qu'on avait qu'il y avait à chaque fois un fût qui revenait. Et je me disais, mais en fait, ce fût répond exactement à ce que je cherche en sensation au goût.
Et donc plutôt que de faire. C'est impossible, ça sera. Tu ne pourras pas le faire. Vu que tu nous as expliqué qu'au bout d'un moment, le tonneau, cet échange. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne pourras plus retrouver le même goût que tu.
Bah là, non. Alors en fait, j'ai pu le faire 4 ou 5 fois parce que malgré tout, à chaque fois,
il
y a une aromatique qui s'y rapproche.
Ouais.
Après, en gros, à chaque fois, ça veut dire que quand on fait un single casque, moi, je demandais à la distillerie de m'envoyer un échantillon de 5 tonneaux différents ou 4 tonneaux différents. Mais. Avec la même aromatique.
D'accord.
Mais en revanche, les 5 tonneaux différents étaient complètement différents.
Ouais.
Et après, moi, je choisissais l'aromatique qui, pour moi, reflétait l'écriture du GIP.
Ouais.
Et j'ai choisi de faire une réduction. C'est-à-dire que quand on fait son whisky, quand on le choisit dans le tonneau, il peut avoir un titre d'alcool à 60, 66 ou 56 degrés d'alcool.
Ouais.
Donc, c'est très fort. Et généralement, la majorité des whiskies, on va les consommer entre 40 et 46 degrés d'alcool. Moi, j'aime bien avoir un peu de tension, donc j'embouteille à 46 degrés parce que sinon, je trouve que c'est un peu, ça me donne une sensation un peu aqueuse. Enfin voilà, je trouve ça moins intéressant au goût. Et là, pour le GIP, j'ai choisi de le réduire. Donc, la réduction, c'est on rajoute un petit peu d'eau, on mélange de l'eau en fait avec l'alcool, avec le whisky, pour le descendre en taux d'alcoolémie. Et ça va libérer d'autres aromatiques, ça va changer un peu la structure du goût. Et donc le GIP, moi j'ai choisi de le faire à 55 degrés parce que je voulais ce côté bien charpenté. Et puis je voulais aussi raconter, voilà, la mer, faut pas la prendre à la rigolade.
Voilà. Aussi,
donc, si on est trop confiant, on se fait rappeler à l'ordre.
Oui, c'est ça.
Donc, je voulais la mer. Voilà. Donc le GIP, c'est un whisky où au nez on se dit bon, voilà, ça va être facile et tout. Et puis en fait, on peut se faire rappeler à l'ordre quand on le prend en bouche. On peut avoir un retour de mer, on va dire.
Et Yann Moffray, il en a pensé quoi de son whisky?
Il a beaucoup aimé.
Ouais.
Non, il est fan. C'est pareil, il a trouvé mon approche et ma démarche très sympa.
Ouais.
Donc il a beaucoup aimé. Et puis moi, c'est une manière de partager aussi un artisanat français qui est magnifique. qui est pas connu, qui est pas forcément connu de tous les marins, qui est pas forcément, parce que si tu navigues pas sur des bateaux classiques, tu n'as pas forcément en tête la voile classique, donc les bateaux en bois, les Brestois, ou enfin si on n'est pas en gros breton de Brest et qu'on navigue pas, on connaît pas forcément le chantier du Gip. Et pourtant c'est essentiel. Et donc c'est une manière de le faire connaître différemment, voilà. Et puis moi je reverse un peu, ils ont une association pour retaper des bateaux pour les charpentiers du chantier, et je reverse un peu des ventes du GIP justement pour la sauce. Ça c'est à titre personnel, mais ah ouais. Je trouve que c'est une manière en fait d'apporter moi ma petite pierre à l'édifice.
Ouais. D'accord. Donc tu parlais aussi de Inoue Melody, où tu as collaboré avec un compositeur de musique,
oui.
Pascal Du Sapin. Et puis il y a un autre whisky qui est attendu en 2022. Ouais, c'est un whisky qui est quelque part au large d'Ouessant.
Ah
et
oui.
Qui attend.
Bah là, il est
sorti.
Il arrive.
Ouais. Il est sorti.
Ouais, bah il y en a chaque année, il y en a.
En fait, t'en as deux. Donc un qui vieillit dans des bouteilles et un qui vieillit dans des tonneaux. Donc c'est le millésime Aquae et le
Whisky de Profundis.
Whisky de Profundis. Alors ça, encore.
Ouais, il faut parler gaélique, mais
pardon,
c'est gaélique irlandais. C'est l'origine du mot whisky, ouais. Vient du gaélique irlandais ou écossais, suivant qu'on mette un C ou un G. Du mot U-I-S-C-E, donc c'est whisk.
Whisk.
Whisk Beata, en fait, c'est l'origine du mot whisky. C'est du gaélique
irlandais. Ou un truc comme ça, non ?
Eau de vie.
Eau de vie.
Voilà, okay. Exactement. Comme vodka et eau de vie, okay. Comme aquavit et eau de vie, finalement, voilà, c'est de l'eau de vie. Et donc, moi, c'est l'eau de vie, mais des profondeurs. J'ai rajouté un peu de latin parce qu'on est latin. Et en fait, c'est un whisky. En fait, ça, c'est un whisky un peu particulier parce que c'est des mini séries que je fais. Ouais. Parce que c'est un whisky que je fais vieillir sous la mer, au large de Ouessant et de Brest. Au début, c'était une expérimentation. Aujourd'hui, c'est vraiment de la R&D. C'est très particulier parce que. Déjà, je crois que c'est des gens qui font vieillir du vin et du champagne sous la mer.
D'accord.
Là-bas, et qui sont venus me voir et m'ont dit, écoutez, on aimerait bien faire l'essai sur du whisky, est-ce que ça vous intéresse ? On pense que ça ne s'est jamais fait aujourd'hui et on pense qu'il y a un intérêt. Donc, moi, j'étais un peu dubitatif parce que normalement, le whisky, une fois en bouteille, ça ne bouge plus. Donc, okay. Je leur ai dit, je veux bien mettre des bouteilles sous la mer, mais je veux aussi mettre des fûts.
Des bouteilles avec un bouchon spécial pour qu'il y ait quand même un échange
Moi, j'ai mis deux types de distillats différents et avec des bouteilles avec des bouchons en liège.
Oui, pour que ça puisse.
Pour me dire, il ne faut pas que ça soit totalement hermétique, parce que sinon, il n'y aura pas d'échange, d'osmose, on va dire, entre les deux éléments. Comme on a. Voilà. Et en fait, donc je fais vieillir ça à moins 20 mètres et moins 60 mètres pendant un an sous la mer. J'ai commencé il y a 4 ans et j'ai mis ça de côté pendant 3 ans. Et en fait.
Mais là, tu peux pas goûter.
Alors si, parce que tous les ans, je fais une récolte.
D'accord, tu vas regarder ce que ça donne.
Et la première fois, j'avais mis 96 bouteilles et la première fois, j'avais mis deux types de whisky et il y a un whisky où c'était pas bon du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y avait quand même malgré tout un impact sur le goût et sur la texture du whisky alors que c'était en bouteille cirée et fermée. Et ça, je m'y attendais pas. Et donc d'ailleurs, tu vois, les seules critiques que je peux avoir sur Internet, c'est là-dessus. Mais je pense que c'est des gens qui avec qui j'ai pas pu échanger parce que, c'est toujours comme ça quand on crée quelque chose. Et qui sont comme moi, qui disent ouais, mais c'est du marketing, il n'y a pas d'échange, quand le whisky vieillit pas en bouteille. Et donc le mettre sous la mer, oui, il y a des beaux coquillages, c'est joli, mais il n'y a pas d'impact sur le goût. Pourtant, si, en fait. Et j'ai mis ça de côté pendant 2 ans parce que chaque bouteille évoluait différemment.
D'accord.
Et donc il y avait des bouteilles qui, pour moi, m'emmenaient dans un univers gustatif hyper intéressant et d'autres bouteilles. Où là, c'était pas bon, c'était pas intéressant. Et puis j'avais d'autres bouteilles qui n'avaient pas résisté à la pression.
Ah, c'est un peu aléatoire, quoi. En fait, c'est,
oui, complètement.
Ouais, c'est ça, d'accord, okay.
Et donc je me suis dit, ça me coûte cher à mettre sous la mer. après, j'ai beaucoup de manutention.
Ouais.
Et puis j'ai beaucoup de pertes parce que aujourd'hui, j'ai la moitié de ce que je mets sous la mer en fait, qui ne résiste pas à la pression, les bouchons ne résistent pas, donc en fait c'est de l'eau de mer. Donc moi, c'est. Voilà, c'est,
oui, après,
c'est, je peux pas, c'est pas des whisky. Quoi. donc j'ai mis ça de côté, mais en fait l'année dernière, pendant le confinement, j'étais en Bretagne chez moi Et je me suis dit, mais en fait, mon travail, moi, c'est de faire de l'assemblage. Je dis que je mets en avant l'assemblage dans le whisky. Et bien, c'est ce qu'il faut que je fasse sur les bouteilles vieillies sous la mer. Donc, je réouvre toutes mes bouteilles, je les goûte, je les trie par aromatique. Et ensuite, je refais un assemblage avec la sélection que j'ai mis de côté pour être certain du goût que je veux donner sur ce whisky-là. Et c'est un whisky, je dis que c'est un whisky de gastronomie parce que c'est un whisky que j'ai créé pour être dégusté avec des huîtres, du poisson cru, ou d'accord, alors pour celui qui est vieilli en fût sous la mer avec des desserts très costauds ou du fromage assez fort. Et après,
whisky de bleu.
Ouais, exactement. Et donc je le fais comme ça, mais bon, c'est un whisky. La première année, donc j'en ai lancé, j'ai fait 125 bouteilles l'année dernière. Cette année, j'en fais que 330. C'est comme un millésime de champagne. Mon but, c'est pas d'en vendre des milliers, sinon, je mettrais un bouchon hermétique. Il n'y aurait pas d'échange, je vendrais ça très cher et je serais heureux. Enfin voilà, mais le but, c'est de trouver un intérêt au goût. Et voilà, et donc je peux pas faire le goûter à tout le monde parce que après ça demande beaucoup de manutention, je fais gratter, après on gratte en plus pour remettre une étiquette, enfin ça demande pas mal de boulot,
ouais.
mais en fait voilà, c'est une expérience très sympa au goût et je suis content de la partager et j'ai fait le choix moi de commercialiser ce whisky justement pour continuer à creuser cette piste aromatique.
Et de R&D.
Et de R&D, ouais, exactement.
T'as des whisky là en préparation
Oui, bah alors tu parlais de Inoue Melody tout à l'heure.
Oui, donc ça, c'est... en partenariat donc avec le compositeur Pascal Dussapin.
Ouais, c'est le whisky en ce moment qui est en ma série limitée actuelle.
Ouais.
C'est une belle rencontre aussi parce qu'on s'est rencontrés via son caviste. C'est un monsieur qui est amateur de whisky.
Ouais.
Il faut savoir que c'est le plus grand compositeur de musique classique actuelle en France. C'est de la musique classique contemporaine, hein, mais c'est une personne qui compose, qui fait des choses magnifiques et qui exporte toutes ses compositions, qui en fait aussi beaucoup en France, qui est joué dans les plus belles salles. Et on s'est rencontrés comme ça, et parce que lui, quand il est arrivé chez son caviste, il a découvert mon whisky fin de partie. Il dit qu'est-ce que c'est que ce whisky et c'est marrant parce que c'est un monsieur qui est fan de whisky et qui est fan de Samuel Beckett.
Okay.
Et sachant que fin de partie, c'est aussi une pièce de Beckett.
Ouais.
Et donc, on s'est rencontrés parce que son caviste lui a parlé de moi et lui a dit que j'avais écrit un whisky qui s'appelait Le Guip avec un charpentier de marine.
Il a dû se dire OK.
Ouais, et on s'est dit est-ce que ça vous... et le caviste m'a dit ça t'intéresserait de d'écrire un whisky avec une personne de la musique. J'ai dit, évidemment, enfin, voilà. Et donc on a eu un échange génial et on s'est aperçu que finalement on avait des approches créatives assez identiques parce que lui, quand il va composer une musique, une symphonie, un opéra, il va chercher à trouver un équilibre à l'oreille, il va associer différents instruments, il va les faire, il va créer des nuances avec. Et moi j'ai la même démarche avec le goût, je vais chercher des équilibres au goût. Et donc on a discuté longtemps, on a parlé de sa démarche créative et puis des inspirations, des aromatiques que lui pouvait apprécier. Et moi j'ai écrit un whisky suite à cet échange-là. Avec deux choses importantes que j'avais en tête. La première chose, c'était qu'il me disait qu'il me parlait de fluctua, du terme fluctua fluens. C'est-à-dire qu'à la fin d'un concert, on a tout l'orchestre qui s'arrête de jouer. Mmh. Et pourtant, on a cette petite musique qui résonne encore.
Oui.
Avant que tout le monde applaudisse.
Oui. T'as ce moment, tu sais, où...
Ouais, voilà.
Mais ça dure, c'est une fraction de seconde, mais c'est... Et tout le monde est encore...
Dans le suspens.
Ouais, c'est ça, c'est...
Et donc, j'ai gardé... C'était la première chose que je voulais faire, c'était d'avoir un whisky, justement, qui ait une grande longueur en bouche. Donc c'est comme ça que j'ai pensé mon whisky. Puis après, après je me suis inspiré un peu de ses goûts. Il fallait quelque chose de très enveloppant. Il a une musique qui peut être tumultueuse de temps en temps, donc il fallait raconter un petit peu ça.
Wagner.
Voilà, exactement. Et donc j'ai créé ce whisky-là avec lui à quatre mains et c'était génial. Et puis il adore évidemment ce whisky. Et donc ça c'est top.
C'est bien quand
même. Ouais, c'est bien.
Toi, t'as un whisky préféré? Dans tes whisky.
Moi, je dirais ça. Chaque whisky. Moment, whisky. Voilà, c'est comme si on me demandait est-ce que j'ai un de mes enfants que je préfère.
Non.
Mais non, je dirais après c'est chaque mes whisky, je les écris suivant mes humeurs et mes moments. Donc moi, Par exemple, l'hiver, je vais pas
prendre la même chose,
voilà,
boire
prendre la même chose.
Chose.
Ouais. Si je suis en Bretagne ou dans le Sud-Est, je vais pas avoir les mêmes envies. Enfin voilà, donc c'est vraiment des moments ou des humeurs. Voilà. Enfin, donc j'en ai pas de préféré. Je les aime bien tous.
T'as déjà des partitions qui sont prêtes pour des futures créations, en train de rechercher d'autres distilleries. Est-ce que tu envisages peut-être un jour de faire un partenariat avec peut-être des distilleries à l'étranger, en Écosse, aller prendre un petit truc qui traîne en Écosse, qui traîne.
un petit truc qui traîne en Écosse
et puis le faire rencontrer, c'est la rencontre franco-écossaise.
Non, bah peut-être un jour ça, peut-être un jour.
Ouais.
Oui, c'est des idées qu'on peut avoir. Après, j'essaie d'abord de me concentrer, de continuer sur déjà ce que j'ai créé,
ouais.
De continuer. Là, en effet, j'ai d'autres recettes en cours que je vais sortir, mais c'est plus des séries limitées maintenant. Parce que ma gamme permanente, je veux continuer de la faire connaître.
Bien sûr.
Et puis de la compléter avec un peu des affinages très particuliers. Et puis de prévoir la suite, c'est anticiper peut-être à 5 ou 10 ans quel type de whisky on veut avoir dans 5 ou 10 ans. Donc, parce que malgré tout, même si on a de la chance en France, parce qu'on a un climat qui nous permet finalement d'accélérer l'échange entre le bois et le jus. Donc un whisky de 5 ans en France, c'est peut-être l'équivalent d'un 8 ans en Écosse. Parce que le climat est plus tempéré, on va dire, en Écosse. Tandis qu'en France, on va avoir
des variations
plus importantes de température qui favorisent des échanges plus importants. Malgré tout, je trouve que voilà, le temps permet d'avoir un fondu au goût qui n'est peut-être pas forcément perceptible par tout le monde, mais qu'on peut sentir de temps en temps. Et donc ça, j'ai hâte de pouvoir travailler des choses encore un peu plus vieilles pour... toujours continuer de créer des choses un peu merveilleuses.
Et puis tu te fais connaître en faisant des ateliers ?
Oui.
Où tu fais faire de la dégustation, comme toi tu as appris à déguster du whisky, tu permets à des gens, donc c'est des ateliers d'artisans un peu, où tu fais la dégustation, et puis j'ai vu qu'il y avait un repas de Noël aussi.
Oui, on lance, en tant que Français on aime bien associer ce qu'on boit à ce qu'on mange.
Alors je t'avoue que moi le whisky, moi j'y connais rien, et je te dirais même de moi ce que je connais du whisky, j'aime pas. parce que j'y connais rien, et ma mère boit du whisky, et donc elle aime, je crois que de l'écossais, mais certaines marques spécifiques, elle aime pas des trucs américains, bon bref, tu vois, donc parfois elle m'en parle comme ça, mais voilà, je te dirais moi j'aime pas, et je pensais que le whisky c'était que soit de l'apéro, soit que en digestif.
Ouais, bah,
pour moi c'est ça. Donc quand j'ai vu que tu faisais un repas avec accord, comme un accord mets vin, mais accord mets whisky
ouais.
Pour un repas, et que tu me dis oui alors avec les huîtres, moi c'était une découverte.
Ah, mais
c'est là pas, genre ah bon. Ah bon.
non mais si, au contraire, il faut alors évidemment moi j'écris d'abord mes whisky pour qu'ils soient consommés purs, mais après on a toujours envie de grignoter des petites choses.
Sur ton site, on voit aussi comment on peut faire des cocktails à base de whisky.
Oui.
Et moi aussi, je me disais, oh, sacrilège. Mélanger du whisky. j'ai des idées comme ça. C'est comme tu me dirais, je mélange du vin. La sangria, c'est dégueulasse.
oui, bien sûr. Et un petit vin chaud de temps en temps, c'est pas mal.
non, pas du tout. Mais voilà, tu vois, je me dis, les cocktails au champagne, c'est quand c'est du très bon champagne. Moi, ça me heurte, tu vois. Non, c'est bon, donne-moi ma coupe.
D'accord,
et,
c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai que j'ai mal à... Je suis allé en Espagne pendant 6 mois. Les Calimucho, c'est 20 Coca-Cola. Bon, c'est spécial. Puis c'est très sucré. en effet. Après, je pense qu'un spiritueux peut être... Moi, je trouve que... j'écris d'abord mes whisky pour qu'ils soient consommés purs, mais de temps en temps, j'ai envie donc soit de l'allonger d'eau gazeuse, soit et d'ailleurs souvent mes grands-parents, je les voyais allonger leur vin d'eau, ils buvaient pas d'eau, mais ils allongeaient leur vin avec un peu d'eau, pour ils avaient besoin de s'hydrater.
Je sais pas si je garderai ça dans le podcast, mais moi quand j'étais petite et que petite un peu grande, 13 ans, tu sais, pour la dernière goutte de vin, tu sais, tu mets de l'eau, tu dilues, et donc comme ça tu bois du vin. C'est que dans ce contexte que j'ai
pourquoi pas. Après, sur le whisky, ce qui est vrai, c'est que il y a des grands cocktails incontournables qui sont faits à base de whisky. Par exemple, le whisky sour, c'est un cocktail très frais, très agréable. Moi je sais que normalement c'est fait avec du bourbon, mais le bourbon va apporter un peu de un peu de sucrosité, ça va être un peu écœurant. Avec Vert Printanier, c'est un whisky qui va à merveille pour le whisky sour, parce qu'on va être sur la fraîcheur, le fruit, la fleur, la céréale, et justement, ça, c'est très bon. C'est avec du citron jaune, ça se déguste. Et puis, un côté un peu fête qui est sympa.
Donc, vous découvrirez tout ça si vous venez faire un atelier ici.
Les ateliers, en fait, j'ai voulu avoir une approche particulière sur l'atelier. Donc déjà, c'est partager un peu l'apprentissage, enfin, comment on fait un whisky pour ceux qui ont besoin d'apprendre un peu. Mais surtout, je voulais partager, moi, l'étape que je travaille pour faire du whisky, qui est l'assemblage. Et donc finalement, je propose aux gens qui viennent pendant 2 heures chez nous, on leur propose généralement, il y a 4 ou 5 whiskies devant eux, différents. Et on leur dit, moi je travaille de cette manière-là, je travaille à l'envers, je vais travailler l'assemblage. Et donc je pars de ma recette et je leur dis, écrivez quel type de whisky vous avez en tête pour vous, pour votre palais. Et donc, est-ce que c'est un whisky plutôt, fruité, floral? Est-ce que c'est un whisky fort, tourbé, non tourbé? Est-ce que vous êtes plutôt vous avez envie de le partager avec des amis? Vous voulez le déguster quand il fait chaud, quand il fait froid? Et donc, de leur apporter un peu une structure pour leur démarche créative. Et puis après, ils vont créer leur propre assemblage. Ils vont repartir chacun avec leur petite fiole de 20 centilitres. Mais au moins, ils auront créé un truc qui leur ressemble. Et puis nous, on est là pour les accompagner. Soit mes équipes, soit moi, ça dépend qui anime l'atelier, où on va les accompagner. Si à un moment ils pêchent pour dire il me manque ça dans mon whisky, on est là aussi pour les orienter, leur dire peut-être qu'il faut que tu mettes un peu moins de ça ou rajouter de celui-là. Et c'est des moments assez sympas.
On sent que ton métier, c'est un métier un peu passion. Est-ce que tu te sens chef d'entreprise?
Alors oui, parce qu'on est, on est
oui,
forcément.
Parce que j'ai tout sur le dos.
C'est marrant, j'en parlais avec un ami qui a créé sa boîte aussi. On a une espèce de charge mentale d'entrepreneur, de patron en fait. C'est con, mais la première chose, c'est faire tourner la boîte. Quand on a des équipes, la première chose, c'est il faut pouvoir les payer. Et puis après, il y a plein de trucs administratifs. Il faut être carré. Donc ça, ça te ramène à la réalité du chef d'entreprise.
Oui, je suis pas trop.
Après, c'est très agréable. De toute façon, la multitude des chefs d'entreprise aujourd'hui en France sont des TPE et voire des PME. Ouais. Et on est donc moi, je suis une toute petite équipe. Donc oui.
Vous êtes combien?
On est 5.
D'accord.
On est 5. En fait, je viens d'embaucher un salarié qui m'aide sur le développement commercial, mais aussi sur c'est des gens les gens dont je m'entoure sur le commercial, c'est des gens qui sont très techniques dans le vin ou dans le champagne, parce que j'ai besoin d'avoir des gens qui arrivent à exprimer ce qu'ils goûtent ou qui puissent me donner leur avis, parce que je les fais aussi participer sur des assemblages, sur des créations que je peux faire, ça permet d'avoir différents avis. Donc j'ai une personne comme ça, j'ai 2 personnes en alternance. Et donc d'ailleurs celles que j'ai embauchées avant étaient en alternance. Et puis j'ai une personne qui est en stage qui m'aide sur la communication.
D'accord, ok.
Voilà. Et après sinon je travaille plus en freelance avec d'autres personnes autour.
D'accord, et puis tous tes partenaires, toutes les distilleries avec lesquelles tu travailles.
Oui, aujourd'hui je travaille avec 8 distilleries différentes en France. Donc mes premiers partenaires c'était donc Maison de la Mirabelle en Charente. J'ai travaillé aussi avec la distillerie des Menhirs en Bretagne aussi.
En Charente, ça s'appelle comment les distilleries?
Les Charentais sont assez discrets. Donc
pardon, d'accord.
Ils restent dans l'ombre,
ils
travaillent très bien.
Ils font du beau boulot.
Non, mais c'est vrai. Parce qu'ils font, mais c'est leur manière de faire aussi. Ils travaillent pour des grandes maisons de cognac.
Ok.
Ils veulent. Vivons heureux, vivons cachés.
Mais c'est bien aussi.
C'est bien aussi. Mais après, non, j'ai travaillé aussi avec Rouget de Lille dans le Jura, avec justement Vercors. Donc, différentes distilleries avec qui, moi, je travaille différemment suivant les whiskies que je fais.
T'as eu peur parfois pour Maison Benjamin Quent?
J'ai toujours été très confiant sur la marque. Parce que je sais pas, j'ai en tête, je sais où elle va, je sais qu'elle plaît. Après ça en fait les peurs c'est forcément l'année dernière c'était compliqué en 2020, les caves, la majorité des caves ont fermé, les restaurants, donc quand au mois de mai on se dit on a fait à peine ce qu'on fait normalement en un mois en chiffre d'affaires, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est plus se dire on est rattrapé par, par là ça fonctionne très bien, c'est reparti évidemment, on a voilà, on, mais j'ai des partenaires et puis que ce soit des business angels ou des banques qui me suivent bien, donc ça c'est bien parce qu'on est, on est soutenu, ils voient que la marque se fonctionne bien, j'ai des bons retours de la presse, des pros, des consommateurs, donc je suis plutôt, enfin oui, je sais que voilà, j'aurais arrêté avant si je m'étais aperçu que
vraiment ouais,
que j'étais mauvais. Okay. Ou que les ce que je faisais plaisait pas.
Et donc si ouais, c'était à refaire, tu referais tout pareil, ou il y a quand même des petits points où tu dis j'aurais pu.
Non, je referais tout pareil. Après voilà, on apprend chaque jour, hein, donc et puis on a toujours envie d'améliorer des choses, donc ça voilà, on continue.
Ouais, ouais. Donc on a bien compris que t'adorais ton métier, mais parfois faut s'arrêter, faut fermer la porte de son entreprise. Donc déjà, est-ce que tu arrives à fermer la porte de ton entreprise, ou c'est un peu du 24/24? Puis qu'est-ce que tu fais sur ton temps libre? Quelles sont tes autres passions? Qu'est-ce qui fait de toi un homme comblé et épanoui?
Ouais, bien sûr. Alors oui, c'est important de s'arrêter, parce que sinon on se fatigue, on s'use, et puis on peut user notre entourage aussi. Ouais. Alors moi, ma première passion, c'est la voile. Hein, donc,
Ah oui, mais tu parlais de la transatlantique, ça c'est un truc de...
Ça, enfin, c'était moi, ça en me 2003.
Fait,
ouais.
Ça me fait... ça m'angoisse autant que ça me fait rêver, tu vois.
Ouais, bah après, moi, mon prochain gros projet, c'est d'en refaire une. Hein.
D'accord.
Voilà, je vais essayer de vendre un peu plus de whisky pour
s'il vous plaît, achetez du whisky. Et vous consommez avec modération, tout ça, tout ça.
Oui, ça, oui.
Mais... acheter du whisky.
Non, mais c'est des beaux plaisirs.
Ouais.
Non, mais traverser l'Atlantique, c'est une très belle expérience. Je l'ai toujours en tête d'ailleurs. Moi, quand j'ai des coups de mou, je lève le ciel, les yeux au ciel, je regarde juste le ciel et j'imagine que des nuages. Et puis, avec le vent, on s'imagine ailleurs. Voilà. Et on retrouve des sensations qu'on avait au large. C'était une régate, donc c'était en course. Hein.
Ouais.
Une régate d'amateurs qu'on a gagnée, donc c'est génial.
Voilà, tout. Comment s'appelle cette course?
C'était une régate espagnole.
D'accord.
Entre Cadiz, c'était Cadiz-Santo Domingo.
Ok.
Donc, entre Cadiz et Saint-Domingue, on était un petit équipage de 5 Frenchies et puis un Portugais.
Ok.
Et on a gagné devant les Espagnols, donc c'était bien. On a gagné en monocoque devant les multicoques, donc c'était très bien. On
était, encore mieux.
Un petit truc. Non, et c'était, après, c'est intense. Hein. Les 4 premiers jours, c'était de la machine à laver. Enfin, là. Et puis, on a choisi une option qui était très nord. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, on n'a pas
eu... Ouais, c'était pas facile, quoi. C'était
pas le... Ouais. Puis, on a eu des voiles qui se déchirent. On a dû monter au mât. Voilà, bon, c'est comme ça. Hein.
Oui.
Mais c'est sympa. Moi, c'est ce que j'aime.
Oui, c'est ce que t'aimes, ouais.
Après, aujourd'hui, je le fais un peu moins parce que j'ai trois... Je le fais moins en régate. Je fais plus des croisières là, avec mes enfants, ma femme. Pour pas les dégoûter.
T'imagines, voilà.
Mais quand ils vont grandir,
les moussaillons,
on pourra régater un peu ensemble. Donc la voile, beaucoup
ouais,
la voile. Après voilà, quand on vient à Paris, c'est pas si évident donc de faire de la voile.
Okay. Hein.
Mais j'arrive à en faire régulièrement chaque année.
Mm-hmm.
Et puis non, et sinon là, je fais un peu de sport pour m'aérer la tête.
Tu fais quoi?
Je fais de la natation, je fais de l'escalade. Là, j'ai pris des cours, je prends des cours d'escalade. Et je faisais de la course, mais c'est sympa, mais c'est pas mon truc. Je J'en ai fait pas mal, hein, voilà. Mais bon, c'est les genoux, ça fait voilà. Et après, après, je fais des trucs pour avoir une forme un peu physique.
D'accord. Ouais. Tu parlais de tes enfants, t'as 3 enfants, ils connaissent ton travail? Ils viennent parfois. Est-ce que t'as dans la tête cette idée qu'un jour, parce que tu disais que tu voulais être là dans 100 ans, est-ce que tes enfants, je sais pas quel âge ils ont, vu que tu as 43 ans, est-ce qu'il y en a déjà un qui t'a dit « Hey, je suis le successeur
». Non, je pense qu'ils n'ont pas encore ça en tête. Et je vais pas leur imposer.
Oui, bien sûr.
Moi, j'ai créé mon truc, j'avoue, c'est pour moi. Si plus tard, il y en a un qui a l'affinité, je serais ravi. De pouvoir lui transmettre. Après, je pense que c'est pas évident de dire hein, on doit récupérer le bébé du père, quoi.
Ouais.
Donc en revanche voilà, si à un moment il y en a un qui a une affinité, je serais ravi. Pour l'instant, c'est alors évidemment ça les amuse, hein. ils voient les bouteilles, les illustrations, ils ont l'œil, ils disent ah t'as créé un nouveau whisky, parce qu'ils voient une nouvelle bouteille. Donc voilà, alors ils n'ont jamais goûté forcément le plus tard possible, mais de temps en temps, en revanche, on aime bien les éduquer au goût.
Ouais.
Donc dans la cuisine, ils cuisinent souvent, on leur fait sentir des arômes, voilà. Enfin, ça c'est important, je trouve, en tant que Français, moi c'est un héritage qu'on a, il faut qu'on le transmette.
Ouais. D'accord. Donc, dernière question de cet épisode. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont une idée, ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, de monter leur boîte, une idée de business, quels sont les petits conseils que tu leur donnerais pour essayer de faire les choses plutôt bien et pas se casser le nez
Alors moi, je dirais déjà, faut persévérer parce qu'il faut y croire.
Ouais.
Faut pas s'arrêter aux premières portes qui se ferment, ça c'est sûr. Et puis il y aura toujours des gens qui vont dire ah, c'est compliqué, c'est difficile. Enfin voilà, bah, entourez-vous de personnes qui vous donnent de l'énergie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi partager et écouter. Je pense qu'il faut échanger avec les gens, ils vont pas vous piquer votre idée.
Ouais.
De toute façon, c'est l'exécution qui va différer.
Faire la différence.
Donc, en revanche, ils vont toujours vous apporter des petites choses en plus.
Voilà. Ok, bah super. Ben, merci beaucoup, c'était passionnant. On aurait pu parler de tous les whiskies en détail, mais là, les auditeurs, je pense qu'ils auraient été perdus. Au pire, on fera un deuxième épisode avec le détail.
Voilà.
J'imagine si on a beaucoup de demandes. Voilà, on fera une présentation en long, en large et en travers. Merci beaucoup de m'avoir reçu, d'avoir passé ce long moment en ma compagnie. Je te souhaite le meilleur pour ta maison d'édition de whisky et puis dans ta vie personnelle. Et puis, je te dis à très bientôt et joyeux Noël.
Bah, merci beaucoup aussi et puis à très bientôt et joyeux Noël à tous.
Au revoir.
Merci encore à Benjamin de m'avoir accueilli pendant ce long moment au cœur de ses bureaux parisiens. Comme d'habitude, un article dédié à l'épisode est disponible sur le site internet de Slice au www.slice-lepodcast.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette saison 1 de Slice. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, n'oubliez pas d'écouter des podcasts et de prendre bien soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye.